Et on va commencer notre troisième cours, Bezrat Hashem. Je pense que c'est le dernier, mais bon, peut-être c'est l'avant-dernier, mais je pense que c'est le dernier cours, sur le thème de Lo Bashamayim, ça veut dire la Torah n'est pas dans le ciel. Donc on a déjà fait deux cours sur ça. Dans le premier cours, on a ramené la Gemara dans le traité de Baba Metzia, qui a raconté une histoire dans laquelle il y avait une grande, grande marloquette entre Rabbi Eliezer et Chachamim, et que Rabbi Eliezer essayait de défendre par tous les moyens possibles son point de vue, peu importe le cas, d'accord? Et que pour défendre son point de vue, il a même été jusqu'à faire appel à des signes extraordinaires, des signes d'Akadosh Baruch Hu extraordinaires, comme par exemple le mur qui tombe, une voix qui sort du ciel, etc., etc. Et donc a priori, c'est pas seulement des signes que c'est pas seulement des signes que lui a vu seulement, c'est des choses que des signes de prophétie que même les autres Chachamim ont vu. Là, c'est très important à comprendre. Ça veut dire que il a réussi à faire parler, c'est un sadique, hein. Il a réussi à faire parler le ciel d'une manière que même les autres, d'une manière que même les autres Hachamim ont entendu que du ciel on disait la halakha est comme Rabbi Eliezer. Et pourtant, qu'est-ce qu'on a vu dans le premier cours? On a vu que Rabbi Yeshua s'est levé et a dit, bien que le ciel nous dit que la halakha est comme Rabbi Eliezer, la halakha ne sera pas comme lui puisque la Torah n'est
n'est pas
pas
dans le ciel.
dans le ciel. D'accord? Donc la halakha n'est pas comme lui. Bon. Alors on avait posé une question. Tosfot a posé une question. Il a dit que a priori on a vu dans la Gemara, on a vu dans une autre Gemara que quand il y avait la marloquette entre Beth Hillel et Beth Shammai, on n'arrivait pas à trancher comme Beth Hillel ou comme Beth Shammai, jusqu'à ce qu'il y ait une voix qui est sortie du ciel et que cette même voix nous a dit que la halakha est comme Beth Hillel, que les deux ont raison, mais la halakha est comme Beth Hillel. Alors, tout ça, t'as posé la question, a dit a priori, on vient de dire que la Torah n'est pas dans le ciel, donc une voix qui vient du ciel ne peut avoir aucune incidence sur la halakha. Ça peut nous apprendre des choses intéressantes, mais ça peut avoir aucune incidence sur la halakha.
Pour dans un cas d'accepte.
Alors, de là, tout ça, t'as répondu, une réponse intéressante, il a dit que non. Réponse intéressante, d'ailleurs, on a expliqué que Maïmonide n'est pas d'accord avec cette réponse. Tosfot a donné une réponse, il a dit que la voix qui vient du ciel peut nous servir dans certains cas, notamment dans un cas dans lequel on est indécis. Ça veut dire, par exemple, Beth Hillel et Beth Shammai, Beth Hillel était majoritaire par rapport à Beth Shammai. Donc, techniquement, la halakha était déjà comme Beth Hillel. Mais les Chachamim n'étaient pas tranquilles. Pourquoi ils n'étaient pas tranquilles? Ils n'étaient pas tranquilles puisque les Chachamim se disaient, c'est vrai que Beth Hillel sont majoritaires, mais on avait l'impression que Beth Shammai était plus fort, était plus intelligent. Donc, on n'était pas tranquille avant de fixer la halakha comme Beth Hillel. Et donc, explique Tosfot que une voix qui vient du ciel peut avoir un rôle rassurant. Ça veut dire que quand on n'est pas sûr que la halakha est comme quelqu'un, la voix qui vient du ciel peut nous rassurer. Chose sur laquelle Maïmonide n'est pas d'accord. Maïmonide n'est pas d'accord. Maïmonide, il pense qu'une voix qui vient du ciel ne peut servir à rien du tout. D'accord? C'est-à-dire qu'une voix qui vient du ciel, alors on a étudié la semaine avec M. Bismuth. Ah, parce que la semaine il n'y avait que M. Bismuth qui était là.
Ouais, Zach Moreau.
Vous étions nombreux.
Et à partir de maintenant, le chiffre va que quoi?
Bah, Rachel, le fidèle
qui commence à parler tout seul, si je ne vais pas le laisser seul.
Fidèle parmi les fidèles, va au Rachel.
C'est notre sauveur.
Donc, la semaine dernière, on a fait cours, on a étudié.
C'est la bonne humeur du matin, donc il y a que.
On a étudié longuement les lois de Maïmonide. D'accord? Dans la page 2. On avait étudié longuement les lois de Maïmonide. Bon, que je ne vais pas refaire, hein, parce que chaque cours a sa touche. Mais on avait étudié longuement les lois de Maïmonide, les lois de la prophétie. Dans lesquelles Maïmonide expliquait longuement les lois de la prophétie, et la conclusion à laquelle on était arrivé, c'est que, selon Maïmonide, une voix qui vient du ciel ne peut avoir aucune incidence sur la halakha. Aucune. D'accord? Zéro. Donc même pas comme Tosfos qui a dit que la voix peut venir pour rassurer les chachamim, qu'ils ont bien tranché une halakha, quelque chose comme ça. Selon Maïmonide, la voix qui vient du ciel ne peut avoir aucune incidence. C'est-à-dire le Ruach HaKodesh. Imaginez-vous qu'il y a un jour un chacham qui vient et dit, il dit, écoutez, il y a une voix qui vient du ciel qui a dit que j'ai raison. Même si on le croit, et même si les autres ont entendu cette même voix du ciel, cette voix n'a aucune incidence sur la halakha. Alors le Ran, on avait fini avec ça la semaine dernière, le Ran Rabbeinu Nissim avait expliqué dans une de ses drachot. Vous savez que le Ran a écrit ses drachot. Quand ses drachot, donc ça c'est drachot qui est dans la communauté. Il les a pas toutes écrites, mais en tout cas il en a écrit quelques-unes. Et on a un livre qui est compilé qui s'appelle Drachot Aran. Je sais pas s'il y en a d'autres qui n'ont pas encore été imprimés, mais en tout cas, on a un livre avec une dizaine de drachot du Ran, très très intéressant, particulièrement profond. D'ailleurs, c'est intéressant parce que entre le Rambam et le Ran, Rabbeinu Nissim, qui a vécu donc au Maroc, ça fait partie des premiers penseurs juifs qu'on retrouve. D'accord? C'est vraiment extraordinaire. Après, bon, ça s'est plus développé.
Maroc.
Et là-bas, oui. Et là-bas, Rabbeinu Nissim, il a vécu en Espagne ici. Et là-bas, il dit la chose suivante. Il explique la chose suivante. Il dit, comment ça se fait qu'on nous dit que... Alors, mettez votre téléphone sur vibreur. Voilà. Pour l'iPhone, c'est très simple. Alors, donc on a dit comme ça. On a dit qu'on a expliqué la semaine dans les drachot du Ran. Le Ran a expliqué la chose suivante. Il a dit, comment ça se fait qu'on, quand on nous dit que la Torah n'est pas dans le ciel? Finalement, on sait bien que la Torah, on a reçu la Torah au Mont Sinaï. La Torah vient du ciel. Alors ça veut dire quoi quand on dit que la Torah n'est pas dans le ciel?
Elle n'est plus dans le ciel. Là, il nous l'a donné.
Ah oui. Ça veut dire quoi? Il pose une question très simple. Il dit, ça veut dire quoi quand on dit que la Torah n'est pas dans le ciel? A priori, la Torah nous vient du ciel. Je comprends pas. Tu as quelqu'un qui te donne un message. Mais toi, tu as un fournisseur qui te livre quelque chose. Après, il revient te voir et te dit, écoute, tu sais, je t'ai dit ça, mais faut rajouter ça. Ben, je comprends. Ben, c'est lui qui a créé la machine. Il sait ce qu'il fait. D'accord? Donc le Ran a posé une question très simple. Il dit, je comprends pas. Comment ça se fait qu'on dit que la Torah n'est pas dans le ciel, mais la Torah vient du ciel? Alors, il a expliqué la chose suivante. Quelque chose d'extraordinaire. Enfin, quelque chose qui, à mon avis, qui est unique. On a trouvé ça nulle part ailleurs. Il dit comme ça. Il dit que, lorsqu'on a une marloquette entre le prophète et le sage. Ah, donc, vous voyez, donc, ça veut dire quoi? C'est-à-dire que d'un côté, vous avez le prophète qui vous dit, on m'a dit du ciel qu'il faut faire comme ça. Et d'un autre côté, vous avez le sage qui va vous dire, mon cerveau me dit qu'il faut faire le contraire. Dit Maïmonide la chose suivante. D'accord? Il dit, d'après moi, Rabbi Eliezer était plus proche de la vérité que Chachamim, dans notre histoire. Chachamim qui était majoritaire. C'est-à-dire, l'Halakha, vous vous rappelez dans le premier cours qu'on a fait, l'Halakha était tranchée comme Chachamim. Alors écoutez bien ce qu'il... Mais on a dit que Rabbi Eliezer a fait différents tours de force pour montrer que l'Halakha était comme lui.
Oui, mais...
Mais l'Halakha n'était pas comme lui. Alors écoutez bien ce qu'il dit le Ran. Il dit, d'après moi, qui était plus proche de la vérité, c'est Rabbi Eliezer. D'ailleurs, il dit, c'est clair que tous les signes qu'il a fait n'étaient pas des signes de sorcellerie, parce que sinon on l'aurait tué. Donc c'est clair que tous les signes qu'il a fait, c'était des signes qui étaient tzotkim ve'amitim. C'est-à-dire des signes qui étaient justes et vrais. Et que les chachamim eux-mêmes, écoutez bien ce qu'il dit, les chachamim eux-mêmes savaient que qui détenait la vérité, c'est Rabbi Eliezer. Alors pourquoi ils n'ont pas tranché la chachamim?
Parce qu'on a dit, on a répondu.
Écoute bien. Parce que écoutez bien comment le Ran explique. Il dit que dès que les Chachamim ont compris comme ça, une fois qu'Akadosh Baruch Hu a donné la Torah au Bnei Israël, il demande aux Chachamim de comprendre la Torah avec leur cerveau. Et il leur dit comme ça, si vous ne comprenez pas la Torah avec votre cerveau, même si votre cerveau vous dit oui mais la vérité est comme ça, tant que vous n'avez pas compris, il faut suivre votre cerveau. Et la halakha sera ce que votre cerveau décidera. C'est impressionnant ce qu'il dit. Il dit que les Chachamim, à ce moment-là, savaient que Rabbi Eliezer avait raison. Ils savaient pertinemment que la vérité était chez lui.
C'est comme pour les rêves.
Mais ils essayaient de le comprendre. Ils essayaient de tourner dans tous les sens. Et à chaque fois, ils arrivaient à leur conclusion. Donc ils n'avaient pas le choix, au nom de la vérité, d'accepter leur conclusion personnelle. C'est extraordinaire ce qu'il explique.
Vous avez le même problème sur Rabbi Eliezer.
Ça veut dire quoi? Ça veut dire que
on avait ici. Même arrivé par même raisonnement intellectuel aussi.
Bien sûr.
Pourquoi tu...
Ouais, mais il était plus intelligent.
Oui, mais ça veut dire
donc,
quoi?
C'est le raisonnement intellectuel de la majorité qui doit compter.
Exactement. C'est le raisonnement intellectuel de la majorité qui doit compter. D'accord. C'est comme ça. Même alors, et de ce que nous raconte le Ran, on comprend que les Chachamim, c'était un grand effort pour eux de pas accepter la vie de Rabbi Eliezer. Contrairement à ce qu'on peut penser quand on lit l'histoire. Quand on lit l'histoire, on croit que Chachamim, c'était majoritaire, allez, on va l'écraser celui-là. D'accord? Alors que le Ran nous amène complètement le Tanya Rav Shach, il dit pas du tout. Il dit c'était un effort pour eux. C'était un effort pour eux de dire la halakha comme nous, parce qu'ils sentaient que la vérité était comme Rabbi Eliezer. Mais étant donné que leur cerveau leur démontrait le contraire, ils étaient obligés de suivre leur cerveau. Vous voyez la place qu'on accorde au cerveau dans la halakha?
On parle de majorité.
Extraordinaire.
On l'a expliqué un peu dans le premier cours, ça. Pas dans les mêmes mots, mais...
La même chose, hein. Excuse-moi, mais peut-être t'as compris ça, mais moi je l'ai pas expliqué.
Bah si, on parlait d'intelligence.
Non, on n'a pas expliqué cette notion-là. Cette notion-là que les Chachamim, que pour les Chachamim, ils voyaient que la vérité était chez l'autre, d'accord? Ils sentaient qu'il avait raison, et que c'était un effort pour eux de dire qu'eux, ils ont raison parce qu'ils doivent suivre leur cerveau.
Et Dieu, finalement, il valide.
Oui, parce que pourquoi Dieu est valide? Parce que Dieu, quand il a donné la Torah, il dit, moi je vous ai donné la Torah, je vous l'ai donnée pour être comprise par votre cerveau.
Elle est donnée pour les hommes.
Pour les hommes. Et donc on est obligé de suivre la majorité des cerveaux. C'est ce que ça veut dire.
D'ailleurs, un Bedjin qui s'est trompé, il peut faire souvent.
La majorité des gens, des décisionnaires.
Non, la majorité des cerveaux. C'est-à-dire quand... la majorité des cerveaux. C'est ce que ça veut dire.
Je sais pas pour l'élite.
Puisque la voix qui est venue du ciel, qui a dit la halakha comme Rabbi Eliezer, tout le monde l'a entendu.
Des Chachamim, pas la majorité
des cerveaux. Bien sûr, la majorité des cerveaux de Chachamim. Mais ça veut dire qu'on suit la, majorité logique, pas la majorité spirituelle. D'accord, c'est un grand chidouche ce qu'il dit ici le Rav. On a pu penser quand même, attends, la voix qui vient du ciel, elle peut pas avoir une importance. Alors pourquoi c'est une question qui est très importante et en quoi cette question peut nous concerner aujourd'hui? C'est ça que je, sur ça que je vais m'arrêter aujourd'hui. On a beaucoup de halakhot aujourd'hui dans lesquels on a une sorte de marloquette entre le Zohar et les poskim, et les décisionnaires. D'accord? Des grands classiques. Enfin, l'exemple que je donnais il y a deux semaines, et on aura d'autres exemples Bezrat Hashem, c'est est-ce que la Mida, on doit la faire à voix basse, alors, d'accord, de manière à ce qu'on n'arrive même pas soi-même à s'entendre, ou bien est-ce qu'il faut s'entendre? Le Zohar nous dit qu'il ne faut même pas s'entendre, il interdit de se faire entendre, alors que les poskim nous disent il faut se faire entendre, et celui qui ne sait pas entendre, il y a un problème dans sa Mida. Vous voyez, un il dit blanc, l'autre il dit noir. Moi je fais quoi?
Qui fait? Ça dépend de l'endroit où tu te trouves.
Non, attends, moi je fais quoi?
Eux, ils n'ont pas dit ça, hein. Ils n'ont pas parlé de...
Il n'y a pas d'endroit.
Wow.
Non, c'est pas vrai. Excuse-moi, là, il y a une marloquette entre eux. Alors, maintenant, les poskim, les décisionnaires, quand eux, ils te disent, il faut en faire entendre sa voix, ils te le démontrent, halakhiquement. Le Zohar, ça ne demande rien du tout halakhiquement. Il te dit, c'est venu du ciel. Mais c'est ça.
Après, ça dépend de qui, dans quel endroit tu es. Si tu es chez toi, tu peux... Même chanter, si tu veux.
Ah, non, l'Ozard, ah, il te dit, même
Lozard,
si tu es chez toi.
C'est ça, qu'est-ce que tu peux faire par rapport aux gens que tu risques de déranger, c'est ça?
Ouais.
Ah, pas du tout, ça, c'est autre chose, ça. C'est autre chose. C'est un autre problème, ça. Est-ce que tu ne risques pas de déranger ceux qui sont autour de toi? C'est un autre problème. C'est pas pour ça qu'on fait la fille à voix basse. Le Zohar, il explique, d'accord, une raison que... Une raison, il y en a encore...
La majorité, non, qui l'emporte.
Le Zohar, il explique la chose suivante. Non, ça n'a rien à voir avec la majorité. Le Zohar, il dit la chose suivante, il dit, c'est parce que, enfin, pour cet exemple là précis, il dit, pourquoi on doit faire la tefillah à voix basse, puisque la tefillah, c'est un moment d'annulation, la Neshama est en train de s'annuler à Kadosh Baruch Hu, est en train de parler avec Kadosh Baruch Hu dans la cuisine. D'accord? Etc, etc. Mais le Zohar n'amène pas d'argument logique et halakhique. Je dis pas, oui, moi, je pense que la Gemara voulait dire ça, ou j'ai vu ça dans une Mishnah. Ouais, rien de tout ça. Vous voyez ce que je veux dire? Vous voyez le problème? C'est un grand problème, ça. Donc, on a un petit peu le même conflit entre, que le Ran parlait, entre le prophète, et le sage. Ouais, d'accord, ben. Le conflit entre le prophète et les sages.
On sait bien que les deux ont raison, mais qu'il y a la
ben non, parce que par exemple, vous voyez dans l'islam, par exemple. Dans l'islam, on accorde une grande importance au prophète. L'Avdil, hein. Comme, mais c'est intéressant quand on analyse.
Oui,
on accorde une grande importance au prophète, et le prophète peut faire tourner la halakha, entre guillemets, comme lui, même si le sage n'est pas d'accord. Même si c'est quelque part, c'est pas logique. Et donc, d'où on arrive à des aberrations comme aujourd'hui. Ah oui.
Surtout qu'ils
savent. Non mais il faut le savoir ça. Ça c'est issu de prophètes. D'accord. C'est des gens qui. Vous savez que le chez les Arabes, c'est des gens qui ont une grande soumission. Les gens qui se font sauter comme ça, c'est parce qu'ils ont une soumission aux prophètes. Et qu'on leur a dit aujourd'hui c'est la halakha, ils le font. Si même dans le mal il y a quelque chose à apprendre, hein, comme a dit le Baal Shem Tov, de tout on doit apprendre quelque chose. Ça veut pas dire qu'il faut faire comme eux.
Bon, là, il n'y a pas grand
chose à prendre. Si, moi, une chose j'apprends d'eux, c'est la soumission. Non, c'est sérieusement. La soumission.
Ils sont pas psychologiquement soumis, hein.
Quoi qu'il en soit, ils sont soumis. Non, ils sont particulièrement soumis, excusez-moi. Parlez avec votre épicière, hein, vous verrez, ils sont tous soumis. Ils ont une soumission.
Plus de la bêtise que...
Ah,
bien sûr. Attention, j'ai pas dit... J'ai pas dit demain, vous allez voir, Mendy va se convertir à l'islam.
C'est une soumission à la bêtise. Ouais. Bah, c'est parce qu'ils sont incultes, ils sont soumis dans tout.
Mais
sur le plan politique, ils sont soumis.
Il y a quelque chose, bien sûr, c'est vrai, le peuple juif, nous sommes un peuple d'insoumis. Ça, c'est clair. D'accord? En tout cas, je reviens. Insoumis.
Ah oui.
Nous sommes pas soumis.
Les femmes sont soumises aux hommes, les hommes.
Alors, je reviens à notre sujet. D'accord? Donc, on a appris quelque chose d'intéressant dans le RAN. Pourquoi c'est une question intéressante? La question est très intéressante ici parce que on a ici un conflit entre eux. Très souvent ça arrive, et beaucoup plus souvent qu'on le pense, comme on verra aujourd'hui, on peut avoir un conflit entre le sage et le prophète. Ça veut dire entre celui qui te dit j'ai vu comme ça dans le ciel. Vous savez, on a expliqué plusieurs fois dans le Cours de Tania que pas tous les tzadikim étaient des sages. C'est-à-dire pas tous les tzadikim étaient très forts en études de Torah. D'accord? Donc, quand tu as un tzadik qui vient et te dit du ciel, on m'a dit il faut faire comme ça. C'est le rang qui dit mais non, c'est pas comme ça. Tu fais quoi? Tu es entre les deux, tu fais quoi? D'accord. Alors si on suit a priori Tosfot et Maïmonide, d'accord, voilà, c'est comme le cas de la tefila. Je te dis, moi je fais quoi maintenant? Je fais la tefila à voix basse, que je m'entends pas, je m'entends ou je m'entends pas? Tu fais quoi?
Bon,
je fais.
Eliyahu qui a fait son sacrifice là-bas dans le.
Ah ça on en a parlé la semaine dernière, d'accord. C'est pas la même chose. Oui. Alors on avait amené l'exemple la semaine dernière, on avait dit qu'un prophète n'a pas le droit de changer aucune mitzvah de la Torah. Mais, rappelez-nous, monsieur, ce qu'on a dit, il a le droit de changer si c'est de manière temporaire. D'accord? Comme Eliyahu Hanavi. Mais il y a plusieurs détails. Mais le détail principal, c'était que quand, si c'est temporaire, comme Eliyahu Hanavi, qui a offert un sacrifice en dehors de Jérusalem alors que le Beth Amikdash était là, il a fait ça avec la force de prophète. Mais pourquoi il a eu le droit de le faire? Puisqu'il n'a pas changé une mitzvah de la Torah, il a simplement mis en pause une mitzvah de la Torah temporairement. Ça, on a le droit.
Mais Rabbi Eliezer, c'est la même chose alors.
Non. Rabbi Eliezer voulait donner la lacha ad vitam aeternam. Ouais. Ah oui, pas la même chose. D'accord, donc ça c'est la conclusion à laquelle on est arrivé, qu'a priori, la halakha peut être fixée uniquement par la
majorité.
Logique. Eh oui, pas par la majorité, par la majorité logique. Qu'est-ce qu'on vient d'expliquer.
Majorité d'accord. Intelligente.
Logique, enfin, intellectuelle.
Si il y avait la majorité de Rafaim qui avait entendu une voix du ciel.
Il faut qu'avec leur... C'est ce qu'on apprend du RAN, encore une fois, je crois. Je vais répéter, je pense que c'est un point très très important à comprendre. Le RAN nous dit que tous les Rafaim ont entendu la voix du ciel. Qui disait la halakha est comme Rabbi Eliezer. Je répète, tous les Chachamim ont entendu ça. Ah, pourquoi ils n'ont pas tranché la halakha comme Rabbi Eliezer? Parce que ils essayaient avec leur cerveau de comprendre les arguments de Rabbi Eliezer, ils n'arrivaient pas à comprendre, donc ils ont dit, désolé, mais on ne peut pas trancher la halakha comme toi. Et ils avaient un conflit et c'était dur pour eux de dire que la halakha est comme nous.
Une décision ne doit pas être soumise. Elle doit être.
Vous imaginez ça. Comment elle pourrait transformer la situation.
Une décision
ne doit pas être soumise.
Il n'y a pas de vérité absolue, la vérité est relative.
La vérité absolue, c'est ce que le cerveau décidera. En d'autres termes, ce qui explique le Rahn, il dit qu'Akadosh Baruch Hu s'arrangera, dans les générations, ça on va en parler aussi maintenant, Akadosh Baruch Hu s'arrangera pour mettre dans la tête des Chachamim, dans le cerveau des Chachamim, et faire en sorte qu'ils comprennent, d'accord, ce qui correspond à la halakha qui doit être tranchée pour ce moment-là. D'accord.
Alors, ah ben voilà. Mais c'est quoi la voix du ciel alors? À quoi elle sert?
À quoi elle sert la voix du ciel? À rien du tout. Parce qu'elle a rien du tout. À embrouiller les choses, excuse-moi. Elle sert à rien du tout. Là, elle sert à rien du tout, puisque la halakha n'est pas comme ça. Mais elle sert à nous montrer quelle est la vérité absolue. Comme les choses de Beth Shammai. On sait que la halakha était comme Beth Shammai. D'accord ?
Bon. Tu as dit tout à l'heure que Rami était persuadé que Rabbi Eliezer il avait raison.
Oui, bien sûr, parce qu'il voyait les mêmes signes que lui. C'était pas des signes de sorcellerie.
Ah, à cause de ça.
Ben, bien sûr. Mais ils n'arrivaient pas à comprendre pourquoi. Donc, ils étaient obligés de trancher la halakha comme. Alors, on va prendre la page 3. D'accord ?
Non, je sais pas, il doit être programmé.
Vous avez froid?
Non, moi je suis pas froid, j'ai mis un pull. J'ai prévu le coup.
Vous avez
fait bon. Lorsque il fait froid, c'est vendredi soir, après qu'on reste au cours de
bizarre,
de
mon père. T'as froid aussi?
Non. Je sais pas, j'ai oublié.
Il a deux
c'est vrai qu'on a caillé. Je sais pas si vous en avez, je pense. Non. On a caillé non, vendredi soir.
Il peut pas voir, il a le
hèche. Il a l'habitude, on a coupé par les lames ici.
Si. On a coupé les choses.
Alors, il y a une question qui est posée par les psychologues. Est-ce que le froid endort plus que le chaud?
Bah, c'est clair. Le chaud endort.
Ah non, est-ce que le froid endort plus que le chaud?
Non, c'est vrai que les gens qui meurent de froid, ils
sont endormis. Enfin, moi, le chaud, c'est
Alors, ils sont arrivés à une conclusion, écoutez bien. Ils sont arrivés à une conclusion que le froid endort plus que le chaud.
Ça dépend à quelle température.
Non, mais c'est-à-dire quand il fait froid, ça endort plus facilement que quand il fait chaud.
Parce que quand tu dors, mais c'est une réaction du corps, parce que quand tu dors, tu sens pas le froid.
Oui, peut-être. Quoi, je sais pas pourquoi, c'est pas mes affaires, mais
Alors,
on va toujours continuer maintenant, on va ramener différentes autres références de la Gemara. Allez, messieurs, on va prendre la page 3. On va prendre d'autres références de la Gemara. On va amener donc la Gemara Megillah, la Gemara Souka, la Gemara Tumura, d'autres références dans lesquelles on va parler du même problème, qui est des choses qu'on n'arrivait pas à trancher, qui ont été a priori tranchés par la voie du ciel. Et donc a priori, ça devrait nous poser un problème. Donc, on va prendre tout d'abord la Gemara Megillah. Donc c'est en haut de la page 3. D'accord. La Gemara dit les choses suivantes. Mais rattaché pour le prochain cours, hein. Yves, tu nous arrangeras des feuilles en A3.
Oui, A3, je sais pas si je peux imprimer.
Tu peux imprimer A3 ou pas?
Avec les méchoudottes, si possible.
Est-ce que tu peux imprimer en
avec les voyelles?
Pas en double, pas en grande imprimante.
Est-ce que vous pouvez imprimer en A3 dans ton bureau? Ah, ça sert à rien alors.
Mais je peux imprimer, je peux photocopier en plus grand.
Ah, tu vas t'amuser à faire chaque feuille?
Oui, ça on peut scanner plus gros, mais ouais. C'est pas pareil.
Yacob, t'as une imprimante qui veut imprimer des grandes feuilles dans ton bureau?
Non.
David, dans ton bureau, t'as une imprimante qui veut imprimer des grandes feuilles?
Moi, j'ai le libraire là, juste là.
Il n'y a pas.
Fais les grandes.
Non, il n'y a pas.
Il n'y a pas beaucoup qui ont des...
Il n'y a pas.
L'imprimante format A3, c'est le double.
Certainement ici, à l'agence.
Au centre, j'ai ma
photo. C'est rare, un truc pour A3.
Dans le centre, le tabac. Seul centre commercial, quasiment.
Ah, il faut jusqu'à là-bas.
D'accord, s'il va te coûter 50 balles pour faire 5 feuilles.
D'accord. Ok, on continue, messieurs. Alors, donc on est dans la Gemara, on est dans la Gemara Megillah.
Envoie-moi et je verrai s'il y a.
D'accord, je t'en vais. Je t'envoie un PDF.
Mais dis-moi, tes photocopies, t'as qu'à faire que la photocopie que de deux, par exemple, et qui occupe toute la page.
En agrandissement.
Ah, c'est compliqué, vraiment. Alors, on a tout d'abord on a la référence la première référence, c'est qui est dans la Gemara Megillah. Gemara Megillah, elle nous parle de la chose suivante, des lettres. Vous savez, vous avez remarqué qu'on a les lettres sophites dans la alphabet qui sont le Mem, le Noun, le Tzadik, le P et le Chaf. D'accord, il y a un raccourci, d'accord, un mémo qui s'appelle Manspar. Manspar, d'accord, c'est le mémo que le Rami m'avait à cette époque-là, pour se souvenir des lettres qui existent en sophite, c'est-à-dire que lorsque ces lettres-là viennent à la fin d'un mot, elles ont une forme différente. Donc Mem, Noun, Tzadik, P, Chaf.
Elle a une valeur en milliers aussi.
Manspar, très bien. Alors, là-bas, la Gemara nous raconte que ces lettres de Manspar, donc les lettres sophites, ont été créées, ont été dites par les prophètes.
Avant, elles n'existaient pas.
C'est-à-dire, encore une fois, c'est très important, parce que c'est ça qui va faire qu'un Sefer Torah soit kasher ou pas, par exemple. Ben oui. C'est-à-dire que, par exemple, dans un Sefer Torah, quand c'est écrit Maïm, d'accord, Maïm, eh ben, si tu l'écris sans même sophite, ça fait même Yud, même. Si tu écris avec un sophite, c'est même Yud, même sophite. Si un Sefer est trompé, le Sefer Torah n'est pas kasher.
Mais ça rajoute pas au nombre de lettres, d'accord. Par contre, ça change la forme.
Ça change la forme de la lettre, et ça a une incidence. À l'Afrique.
À l'Afrique, pourquoi à l'Afrique?
Tu venais à quelle époque?
Alors, la Gemara nous raconte, elle dit qu'une incidence à l'Afrique, parce que j'ai dit, si on s'est trompé,
oui.
On a mis un même sophite au lieu d'un même ou vice versa, le Sefer Torah n'est pas caché, il faut le réparer, il faut changer.
D'accord,
donc c'est un vrai problème. Alors, qu'est-ce qu'elle dit la Gemara dans le traité Megillah, qu'on va étudier tout de suite? Elle dit que les lettres Manspar, donc les lettres sophites, ont été dites par les prophètes.
Oui.
D'accord, donc
il y avait des sfarim ou
prophètes, pas par les sages, par les prophètes. Donc rappelez-vous, c'est toujours le conflit entre les sages et les prophètes. Donc qui dit prophète, dit ça veut dire que c'est venu
après.
Du ciel. Mais non, ça veut dire que c'est venu du ciel.
Oui.
D'accord, après peu importe.
On n'aurait pas dû.
Ça ne nous dérange pas après. Non, après ça ne nous dérange pas. D'accord, après si avec notre cerveau on arrive à la conclusion qu'il faut le faire, ça ne dérange pas. Ça veut dire que c'est venu par la voie du ciel.
Et on n'aurait donc pas dû accepter.
Ah, a priori, la Gemara on va lire ensemble.
Les premiers.
D'accord.
C'est même pas d'hébreu.
On comprend. Ve'amar Rabbi Irmiya ve'itema Rabbi Chiya baraba. Quand Rabbi Irmiya a dit, et il y en a qui disent que c'est Rabbi Chiya baraba, Mansafar, d'accord, Mansafar, ça veut dire donc Mansafar. Mansafar, là, ici.
C'est souligné.
Mansafar, ça veut dire donc les lettres Mem, Noun, Tzadik, Pe, Chaf, Sofim, Amaroum. D'accord, Sofim, Amaroum, ça veut dire c'est les voyants qui l'ont vu. Alors les voyants, Rachid explique, il dit c'est quoi? C'est les prophètes de la génération. D'accord, Rachid, vous avez juste en dessous souligné. C'est les prophètes qui l'ont dit. Alors, la Gemara a posé une question, elle dit, la question qu'on se pose tous, dit, mais Tisbera, tu penses vraiment que quelque chose comme ça a été rajouté par les prophètes, c'est-à-dire par forme de prophétie, et donc par voie du ciel, et pas par forme logique, Vehakti, voilà c'est écrit, et les mitzvot, voilà c'est écrit que lorsque Moshe Rabbeinu a conclu toutes les mitzvot, il a dit, voici les mitzvot. Pourquoi tu dis voici les mitzvot, tu me les as déjà dit. D'accord? Et de là, on a appris que chez En, Navi, Rachel et Khadesh d'Avar Meata. Que pourquoi Moshe Rabbeinu, lorsqu'il a conclu toutes les mitzvot, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, et les mitzvot, voici les mitzvot. C'est pour nous apprendre quoi? Pour nous apprendre que, suite à Moshe Rabbeinu, aucune personne ne pourra ajouter aucune autre mitzvah. D'accord? C'est quelqu'un qui dit, voilà, mitzvah numéro 1, numéro 2, numéro 3, numéro 4, voici les mitzvot. Et a verrouillé. Donc de là, on apprend qu'aucun prophète pourra ajouter quelque chose. D'accord? Ça, c'est une première question que pose la Gemara. Véod, une deuxième question. Ah, Marafrizda, voilà, Rafrizda a dit, même Vesamer chez Beluchot, le même est le Samer qu'il y a dans les Luchot, Benes Ayuomdim, l'étape de la loi. Dans l'étape de la loi, il y a un miracle, c'est quoi le miracle?
C'est que la lettre est donnée, mais alors,
c'est que la lettre même, par exemple, était gravée, d'accord, était gravée jusqu'au fond.
Les lettres fermées.
D'accord, les lettres fermées.
Le tube de pierre, il aurait dû tomber.
Qu'un stylo.
Ah, mais c'est bon, le tube de
pierre. Qu'un stylo.
Le tube de pierre aurait dû tomber.
Tu veux voir un même?
Bon, c'est pas grave, voilà. Je vous montrerai dans le même. Voilà, ici j'ai un même.
Voilà.
Ah, David, il a un stylo.
David,
le sauveur d'Israël.
Il y a toujours si ou là, vous prenez comment?
Alors, je vais vous montrer dans la lettre.
Choisis
ou quoi? Au plus j'ai
le même.
D'accord. Alors.
Attaque. Surtout pas sur l'avion.
Voilà.
Ah oui, c'est un appel sans bras.
Bon. Là, je dessine un même de manière un peu sommaire, mais c'est pour qu'on puisse imaginer. Regardez, vous voyez, dans le même, d'accord, il y a un creux au milieu.
Oui.
Donc ça, ça ne peut pas tenir tout seul. Parce qu'ici, il y a un trou dans le même.
Oui.
D'accord, donc ça, ce bloc qui est ici. D'accord, Il peut pas tenir tout seul.
Alors, dit que ce bloc alors
attendez.
Même plus.
Alors attendez, c'est quoi la technique? La technique qu'on fait en général, c'est qu'on ne creuse pas jusqu'au fond. Donc du coup, ça il tient par quoi? Bah il tient par le fond. Le fond qui l'attrape. Le fond qui dans lequel tout n'est pas creusé. Mais le problème qu'on a avec les louchotes, c'est que les louchotes allaient du début jusqu'à la fin. Ça veut dire qu'elle perçait. Donc si elle perçait, la question qu'on se pose, c'est comment il tenait le même. Pareil pour le samer. Samer, il est presque la même chose, mais il est un peu plus arrondi. Comment le centre tenait? Ça peut pas tenir, c'est impossible.
Il y a même une deuxième question.
On est d'accord.
Ça fait un trou.
Parce que c'est aussi d'accord visible de l'autre côté. Or, la lettre aurait été à l'envers.
Ça, c'est une autre question. D'accord. On parle déjà de cette question. On parle déjà de cette question.
J'ai
compris. On parle déjà de cette question.
Oui.
Comment ça tient?
C'est impossible.
C'est impossible, il y a un problème.
Ça tombe.
Techniquement, c'est impossible. Alors, qu'est-ce qu'il nous a dit? Qu'est-ce qu'a dit Rav Rizda, qu'on a dit ici? Il a dit que le même et le samer dans le louchot, ils tenaient par miracle. Donc, si tu me dis qu'ils tenaient par miracle, ça veut dire qu'il y avait des mêmes sophites à l'époque de Moshe Rabbeinu.
Bien sûr, parce que
tu me dis qu'il n'y avait pas de même sophistes, tu me dis que c'était un même standard.
Ça tient.
D'accord? Ça tient. Le trou, il tient, il n'y a pas de problème. On n'a aucun problème, le trou, il tient, il n'y a pas de trou.
Bien sûr.
D'accord? Est-ce qu'on est d'accord?
Bien sûr. Il tient grâce au petit bout, là.
Tout est attrapé. Il n'y a rien qui n'est pas attrapé. Le problème qu'on a dans le même, c'est qu'il n'est pas attrapé. Alors, qu'est-ce qu'il veut dire à Frisa quand il dit que dans les louchotes, le même, il tenait par miracle? Je comprends d'abord, mais quel miracle? Mais si tu me dis que les mêmes sophistes n'existaient pas, il n'y avait que ce même. D'accord, il y a pas de problème.
On reste
avec le même problème pour le samer. Pour le samer, c'est pas une lettre sophite. Mais qu'est-ce qu'il veut dire quand il parle du même? Vous voyez la question?
Il existait déjà à l'époque.
Bah oui, on est obligé de dire parce que sinon c'est quoi le miracle? Il y a pas de miracle, sinon si tu dis que c'est un même standard, il y a pas de miracle. Vous voyez la question, Dagmara?
Tout à fait.
Donc deux questions. Une question idéologique et une question technique.
Si c'est en octave achourite.
Oui, c'est en octave achourite. Non, les louchotes, c'est un octave à chourite.
Il y en a qui disent que c'était
pas non, les louchotes, c'est un octave à chourite. Faites écouter ces gens qui racontent des bêtises, les louchotes, c'est un octave à chourite. Excusez-moi de...
Vous avez pas lu Charlton Heston, quand il porte des trucs, il y a des petits trucs...
J'ai lu, il y a un livre sur ça. Si vous voulez, j'ai un livre, mon bureau, je vous prêterai un livre très intéressant sur toutes les écritures et tout le développement du taf qu'on a aujourd'hui. Très intéressant. Par un professeur, enfin il a fait ça, professeur de ça, quoi, un professeur de langue hébraïque, très intéressant. Alors, donc, quoi qu'il en soit, donc la Gemara pose ici deux questions. Une question idéologique et une question pratique, technique. Première question, on dit comment tu peux me dire que qui c'est qui a instauré les lettres sophites, c'est les prophètes. Voilà, a priori on a un problème. Et la mitzvot, de là on apprend qu'aucun prophète peut rajouter quoi que ce soit. C'est une première question. Donc on peut pas. C'est-à-dire qu'un prophète, il dit, monsieur, vos preuves, c'est quoi vos preuves? Il n'y a pas de preuves, dehors. C'est une première question. Deuxième question, on a dit que dans le louchot, il y avait le même qui tenait par miracle, le même sophite. A priori, d'après ce que tu m'as dit, il n'y avait pas de même sophite. Donc techniquement, il y a un problème dans ce que tu me dis. Vous voyez la question? Bon. Alors réponds la Gemara. Alors elle dit « in ». D'accord? Réponds la Gemara, elle dit la chose suivante. Elle dit « bon, alors peu importe, on va sauter. » D'accord? La Gemara, elle continue, elle dit... Bon, la Gemara, d'abord, essaie de donner une réponse. Une réponse qui est un peu intéressante. Elle dit que non, qu'en vérité, le même sophite existait. D'accord? Mais qu'on ne savait pas est-ce que le creux devait être... ici, d'accord, je veux pas lire dans les mots. Est-ce que le creux devait être là ou est-ce qu'il devait être là? Et que c'est ça les prophètes ont dit, ils ont dit non, le creux doit être là. Bon, la Gemara, encore une fois.
Ah oui, d'accord.
Si, ça change, parce que dans le
louchot. Là, il tient.
Ah oui, là, il tient. D'accord.
C'est un peu
quoi qu'il en soit, la Gemara, bon, je veux pas vous, de toute façon, c'est pas le sujet du cours d'aujourd'hui sur les louchot. La Gemara repose la même question, la première question qu'on a posée, elle dit, sauf, il y a une question, comment les prophètes peuvent innover quelque chose qui n'est pas écrit? Comment ils peuvent innover? Par force de prophétie. Ils peuvent innover par force de loi, d'accord? Par force de logique, mais pas par force de prophétie. On a expliqué la semaine dernière, dans Maïmonide, que le rôle d'un prophète, c'est quoi? C'est justement d'encourager les gens à faire Torah et Mitzvot. D'accord? Donc, d'encourager à faire une mitzvah ou les décourager à faire une avéra. D'accord? Donc, au travers de différentes prophéties. Mais on ne peut pas rajouter des mitzvot. Là, ils ont rajouté quelque chose. Alors, répond la Gemara, et là seulement, écoutez bien, donc c'est la dernière ligne, de la deuxième référence. Shrachum vechazru veyazdum.
Souligné.
C'est souligné.
Oui, d'accord.
Seulement quoi? C'est quoi la réponse? Dit la Gemara. Shrachum vechazru veyazdum. Ça veut dire qu'on a oublié, en vérité, la forme des lettres sophites. Et les prophètes sont venus pour nous rappeler quelque chose qu'on connaissait déjà. Donc, ça veut dire, en d'autres termes, les prophètes n'ont pas innové. C'est la réponse de la Gemara. Donc, attendez. Alors, c'est une réponse qui est intéressante. C'est-à-dire, de là, on apprend quoi? On apprend qu'un prophète
ne peut pas innover, mais peut nous rappeler quelque chose qu'on a oublié. Bien que ce rappel aura une incidence à l'Afrique.
Bien sûr.
Parce que qui te dit peut-être le prophète t'a mal transmis, c'était pas ce qu'on avait là-bas.
On peut penser, c'est pourquoi ça s'était perdu.
Ça s'était perdu. C'était la Gemara. Ça s'était perdu avec les souffrances, etc. Ça s'est perdu. On a oublié. Même
ce fils. On a retrouvé un Sefer Torah à l'époque du roi.
Ça s'est perdu. On a oublié comment former ça. D'accord ? On a oublié, on ne savait plus comment former. Les prophètes ont dit c'est comme ça qu'il faut le former. D'accord ? C'est-à-dire qu'on a exactement, c'est-à-dire qu'on arrivait à un moment où on n'arrivait plus à mettre la main sur un Sefer Torah. Il ne faut pas oublier aussi qu'à l'époque, on n'avait pas la communication entre les communautés comme aujourd'hui. Chacun vivait dans sa ville et c'était très difficile. Ah oui, il y avait pas, même dans le peuple juif, même en Israël même, il n'y avait pas beaucoup de communication entre les communautés. Ça, c'est la réponse de la Gemara. Donc là, on apprend quelque chose de nouveau. On apprend qu'un prophète ne peut pas innover, mais il peut nous rappeler quelque chose qu'on a oublié. Même si cette chose-là aura une incidence, on a dit, à l'Arik. Très bien. Alors, ça a priori, d'accord, ça correspond un petit peu à ce que j'avais expliqué là, il y a deux semaines dans la chita de Tosfot, que Tosfot nous dit que dans la marloket de Beth Hillel et Beth Shammai, pourquoi la voix du ciel a réussi à nous faire trancher, vous rappelez ce que Tosfot, il a dit parce que Beth Hillel et Beth Shammai, techniquement, la halakha était déjà comme Beth Hillel, mais les Chachamim n'étaient pas tranquilles de trancher comme Beth Hillel, puisqu'ils voyaient que Beth Shammai était plus intelligent. On a ramené au début du cours aussi. Donc, le rôle de la voix du ciel, c'était pour les rassurer. Donc, c'est comme ici. Soit pour rassurer le Ham Israël, ou soit pour rappeler quelque chose qu'on a oublié. Bien que ça ait une incidence à l'Afrique. Là, c'est un premier exemple que je voulais vous montrer. Il y a un deuxième exemple. Un deuxième exemple qu'on va voir tout de suite dans la Gemara Souka. Gemara Souka, juste en dessous. Alors, Itmar, Rabbi Yochanan et Rabbi Yoshua ben Levi. On a une marque entre Rabbi Yochanan et Rabbi Yoshua ben Levi. D'accord ? Donc, deux Tanaïm. Chad Amar Arava Yesod Neviim. Un a dit que la Arava, c'est la Arava qu'on fait, l'Arava qu'on devait faire au Shana Arava. Non, au Shana Arava. D'accord ? Chad Amar, un a dit Arava Yesod Neviim, c'est quelque chose qui a été instauré par les prophètes. D'accord ? Ça veut dire quoi, ça a été instauré par les prophètes? C'est-à-dire, ça a été instauré par les derniers prophètes qui sont Haggai, Zechariah ou Malachi, qu'on appelle d'ailleurs Anshe Knesset Agedola. C'est ceux qui ont instauré la plupart des takanot qu'on connaît aujourd'hui. D'accord? C'est-à-dire, ceux qui ont instauré la plupart des takanot qu'on connaît aujourd'hui, comme les notions de Moukhtse, toutes ces notions-là, c'est eux qui ont instauré tout ça. D'accord? La plupart des takanot que les Chachamim ont instauré, pour couvrir la Torah, pour s'assurer qu'on fasse pas d'interdit, c'est Anshe Knesset Agedola. On en parle d'ailleurs dans Pirkei Avot. Donc, Anshe Knesset Agedola était composé notamment des derniers prophètes qui étaient Haggai, Zechariah et Malachi. Donc, il y en a un qui dit, entre Rabbi Yochanan et Rabbi Yoshua ben Levi, on sait pas qui dit quoi. Mais en tout cas, on sait qu'il y en a un qui dit que la Arava a été instaurée par les prophètes. Ça veut dire, c'est une takanat d'Anshe Knesset Agedola. D'accord? Le Chadamar et un autre qui dit non. Il dit, Arava minhag nevim. La Arava n'est pas quelque chose qui a été instauré par les prophètes. C'est que c'est un minhag des prophètes. Donc quelle est la différence si ça a été instauré par les prophètes ou si c'est un minhag des prophètes? Rashi explique, d'accord? Rashi explique, il dit la différence est est-ce qu'on peut faire une bracha sur ça? D'accord? Parce que si tu dis que c'est parce que c'est, qu'est-ce qu'on te dit dans la bracha par exemple? Tu dis Baruch Ata Hashem Elokeinu Melech Haolam Asher Kidshanu B'mitzvata V'tzivanu Al Netilat Yadayim. Béni soit-tu Akadosh Baruch Hu qui nous a ordonné de se laver les mains. Dieu nous a pas ordonné de se laver les mains. C'est pas écrit dans la Torah.
Prescrit,
ah oui, mais c'est pas prescrit, c'est pas écrit dans la Torah. C'est les Chachamim qui ont instauré.
Alors.
Après, on dit qu'ils nous ordonnaient.
D'accord. C'est où dans la Torah?
Nous la bracha du Halef.
Alors quoi? Très bien. Alors c'est quoi la réponse? La réponse qu'on dit, c'est que non. C'est que Dieu nous a ordonné de respecter les sages. Donc dans le cadre du respect des sages, on doit respecter cette mitzvah. C'est pour ça qu'on dit Vetivano Netilat Yadayim. Comme ça explique Maïmonide. Très bien. Non. Peu importe, là c'est des prophètes qui étaient c'est des prophètes qui étaient aussi sages. Mais bon, ils l'ont pas fait dans le cadre de la sagesse. D'accord. C'est ça la question. Ils ont fait aucune avéra, là, il n'y a aucune avéra de le faire. Il n'y a aucune avéra, ils s'embêtent personne quand je t'en mis là. D'accord, mais là on n'a pas rajouté une mitzvah.
Bah si.
Ah non. On n'a pas déformé une mitzvah de la Torah là. On a rajouté. Comme tu vas me dire, oui, on a rajouté Moukhtse, Dieu n'a jamais dit. Non. On n'a pas déformé une mitzvah de la Torah. Ça, c'est un développement. Ça c'est permis. Alors. Quelle est la différence si c'est une mitzvah donc c'est un développement qui est pour protéger une mitzvah. Ça c'est la marche que Dieu a donnée au Chachamim. On a le droit de rajouter une mitzvah, d'accord, pour mettre des barrières. Très bien. Alors quelle est la différence si c'est un minhag ou si c'est instauré par les prophètes? C'est très simple. C'est que si c'est instauré par les prophètes, dans ce cas-là, on peut faire la bracha sur la Arava. Pourquoi on peut faire la bracha sur la Arava? Parce que on remercie Akadosh Baruch Hu, on bénit Akadosh Baruch Hu qui nous a ordonné au travers des sages, et parce que les sages nous ordonnaient de faire la Arava. Si tu dis que c'est instauré, mais si tu dis que c'est un minag c'est pas instauré. Un minag ça veut dire c'est une bonne coutume, mais celui qui le fait pas c'est pas grave.
C'est le cas, non?
D'accord? C'est le cas. Donc la question qu'on se pose c'est est-ce que la Arava a été instaurée par un Cheknesset Agadola ou est-ce que c'est un minag d'un Cheknesset Agadola? Alors, mais là pour l'instant, on ne sait pas, d'accord? On ne sait pas qui a dit quoi. On ne sait pas si Rabbi Yochanan, si c'est Rabbi Yochanan, qu'est-ce qu'a dit Rabbi Yochanan, qu'est-ce qu'a dit Rabbi Yehoshua ben Lévi. Juste on sait que un a dit que c'est instauré par les sages, et l'autre a dit que c'est un
minag.
Tout ce qu'on sait. Alors dit la Gemara, elle dit Tistayem, certainement, de Rabbi Yochanan ou d'Amar Yosef Lévi. Que certainement que qui c'est qui a dit que c'était instauré, par les sages, c'était instauré et que c'est pas un minag, c'était carrément instauré, certainement que c'est Rabbi Yochanan. Pourquoi? D'Amar Rabbi Abaou Amar Rabbi Yochanan, puisque on a ramené un autre enseignement, d'accord, il y a un élève qui a ramené, il a dit, moi j'ai entendu Rabbi Abaou, qui a dit, au nom de Rabbi Yochanan, qui a dit que, Arava, Yesod Nevi'imu, que la Arava, est instaurée par les prophètes. Très bien, donc il y a un élève de du Beit HaMidrash qui a dit, moi j'ai entendu Rabbi Abaou, qui a dit au nom de Rabbi Yochanan, donc voilà, donc on sait que c'est Rabbi Yochanan qui a dit ça. Bon. Alors. Maintenant, la Gemara pose une question. Elle dit, Tistaim, Amar le Rabbi Zera le Rabbi Abaou, Rabbi Zera a posé une question à Rabbi Abaou, il a dit, Mi Amar Rabbi Yochanan Achi, est-ce que Rabbi Yochanan a dit ça? Que la Rava a été instaurée par les sages? Quelque chose qui a été instauré par les sages? Ve Amar Rabbi Yochanan Mishum Rabbi Nechunia Ishbikat Betrorban. Voilà, Rabbi Yochanan a dit, au nom de Rabbi Nechunia, l'homme qui habitait à la vallée de la maison de Khortan. D'accord? C'est des noms de, c'est comme ceux qui vont des fois en province, il y a des fois des noms de villes bizarres comme ça. Hein, quand tu vois des noms de villes bizarres comme ça, hein, pas Paris, Lyon, des noms.
Rue de la poupée qui touche.
Non, non, pas la rue, la ville. Ouais. Le nom de la ville.
Ouais.
Non, mais y a des noms.
T'as des villes.
La roue qui touche.
Ouais.
C'est pas seulement ça, c'est que des fois.
Vraiment des bleds perdus.
C'est que des fois dans
le GPS,
je trouve. Ouais. Des fois dans le GPS, je cherche le nom d'une ville et je vois que je vois qu'il y a 10 villes comme ça en France.
Ouais. Ah ouais, ouais, ouais.
Ouais. Alors après, c'est à toi de voir dans quelle région elle se trouve.
Il y a une petite ville juste avant d'arriver à Fontainebleau, un hameau qui s'appelle le Fol Juif.
Non.
Ouais. Chaque fois que je passais devant, je me dis, bon sang, il faudrait que je m'arrête pour voir qu'est-ce qui s'est passé ici pour que le hameau s'appelle le Juif Fou.
Le Fol Juif.
Oui, le Fol Juif, ouais.
Faudrait que je m'arrête.
Alors, on continue. Vamar, donc on dit, Esser Netiot, Arava Venitsu Hamaim, Alacha, Le Moshe, Messina. Qu'est-ce qu'il nous dit? Il a quand même nous amène trois Alachot, mais peu importe les deux autres. En tout cas, ce qu'on apprend de là-bas, c'est que l'Arava a été instaurée par Alacha, Le Moshe, Messina, et c'était après Moshe Rabbeinu Mont Sinaï. Alors, la Gemara dit là-bas que Ishtemem Kishat Chada, quand Rabbi Zera a posé cette question à Rabbi Abaou, Rabbi Abaou s'est arrêté un instant. Ça veut dire, il est resté un peu, vous savez, quand des fois on vous pose une question, et vous restez bête comme ça, vous n'avez pas de réponse. Donc, ishtemem, c'est rare comme terme dans la Gemara. Ishtemem kishahada, parce qu'en général, c'est du tac au tac les réponses. D'accord? Rabbi Abaou s'est arrêté comme ça un instant. D'accord? Et il a répondu. Ve'amar, il a dit, shachou ve'chazron ve'yazdoum. Il dit, tu as raison. Tu as raison qu'en vérité, la Arava avait été instaurée depuis Moshe Rabbeinu Mont Sinaï. D'accord? Mais ensuite, on a oublié ce minag par la force des choses. D'accord,
oui, parce que d'accord. Fait, il y a pas de soukot,
et qui c'est qui l'a instauré? Qui c'est qui a re-instauré ce minag? C'est les Nevi'im, les prophètes. Donc là, on voit encore une fois, dans cette deuxième Gemara du traité Souda, que quoi? On voit que une voix qui vient du ciel ne peut pas venir pour trancher une halakha, d'accord? Mais elle peut venir soit pour nous rassurer sur une halakha, ou soit, comme on a expliqué, pour nous rappeler une halakha qui a été perdue. Maintenant, on va prendre une autre Gemara encore, qui va nous permettre de faire un tour du sujet. Après, on aura encore un... Prendre encore la
question. Mais ils n'arrivent pas à comprendre pourquoi la halle a été oubliée, etc. Comment ça se passe alors?
Alors ça existe peut-être, c'est pas une commune quoi.
Ah oui. Il y a des choses que par la force du temps se sont oubliées. Ça tu sais, on le retrouve maintenant sur Shulchan Aruch.
Comment savoir ça modifie quand même?
Parce qu'il faut savoir qu'à l'époque on n'écrivait pas comme aujourd'hui. On n'avait pas le droit d'écrire, c'était interdit. La Torah, pourquoi on appelle la Torah chez Birta, la Torah chez Balpé? La Torah écrite, la Torah orale. On appelle la Torah orale, les deux sont écrits.
Parce qu'avant,
on n'avait pas le droit d'étudier. C'est assourd. D'écrire, pardon. Mais oui.
C'est un acte manqué, là.
D'accord.
Non, parce que ça a figé. C'est quoi, là?
Comment ça se
fait? D'accord.
Ça fige quand on écrit.
Pour nous.
Tu peux plus interpréter pour toi.
Ah.
Bon.
On n'avait pas le droit d'écrire puisque la différence qui est entre la Torah écrite et la Torah orale, c'est que l'écrit c'est ce qui est écrit, ça veut dire ce qu'on doit étudier au travers du texte, alors que l'oral est quelque chose qui doit se développer au fil du temps. D'ailleurs, on le voit, la Mishnah, la Gemara, après, c'est quelque chose qui est censé se développer au fil du temps. Donc c'est pour ça que ça ne devait pas être écrit, puisque puisqu'en vérité, la Torah n'est jamais finalisée.
Mais là, on a limité.
D'accord. Oui.
Ah bon, ah oui,
bah oui. C'est, l'idée que c'est, oral, ça veut dire que c'est jamais finalisé. C'est toujours constant, c'est un développement constant.
Alors qui a décidé de l'écrire?
C'est à partir de Rabbi Yehuda Hanassi. Rabbi Yehuda Hanassi, il a décidé d'écrire parce qu'il voyait que les gens étaient en train d'oublier. Et l'oubli qui est un
important. Alors, est-ce qu'on est sûr à 100% que toute la Torah est gentille, quelqu'un n'a pas oublié un...
Torah écrite?
Oui,
c'est sûr ça.
Ah bon,
c'est sûr.
Oral.
La Torah écrite.
La Torah qu'on a écrite, est-ce qu'on est certain à 100%
pour 100%.
Ah d'accord.
Je veux dire plus que ça. Aujourd'hui, on a accès à des archives et des musées, d'accord, dans lesquels on des goyim, des traductions des goyim, même des originaux en hébreu de la Torah, on a exactement les mêmes textes que nous. Qui datent de l'époque des prophètes, 1500 ans.
Il y a les rouleaux de la Torah qu'on a retrouvés.
C'est sûr ça. Ça veut dire même si tu comptes pas sur nos Sefer Torah, même si tu comptes sur les goyim. C'est-à-dire qu'eux, ils n'ont pas besoin de falsifier. Nous encore, on va dire oui, on a falsifié.
Prouvable.
On a des textes prouvables, c'est clair, ça peut être échangé.
Le rouleau de la mer morte,
Au musée,
c'est pas seulement, avant même le rouleau de la mer morte, tu as les traductions des Perses. D'accord. Et on a l'original duquel ils ont traduit. D'accord. On a la traduction des Septante aussi. Oui, mais c'est une traduction. Traduction, ça ne nous montre pas le texte original. On a l'original qu'ils ont utilisé pour traduire. On a tout, tout ça s'est gardé.
On peut officiellement déclarer, il n'y a pas de problème. Tout le monde
d'accord. Quand tu entends à la télé, des fois dans des séries, on te dit dans des émissions, on te dit oui, la Torah a été falsifiée, etc. C'est des gens qui savent pas de quoi ils parlent. C'est l'ignorance.
Ah oui, d'accord.
C'est même pas seulement de la croyance, c'est pas un problème de croyance, c'est un problème d'ignorance. C'est des gens qui sont ignorants, qui racontent des bêtises.
Que
historiquement, on prouve le contraire. D'accord.
Non, il parlait peut-être sur la loi orale, sur le Talmud.
Ah, non, il a demandé de se faire Torah. Ah oui, tu dis.
Il se dit que le texte original n'est pas celui-là, c'est-à-dire que c'était des morceaux qui ont été rajoutés au cours des siècles.
Alors que même les protestants, ils disent que la Bible des pharisiens, la nôtre, ça veut dire.
C'est l'ancien, c'est ça, oui.
Non, mais parce qu'il y a eu plusieurs encore.
Oui, oui.
Ils te disent celle-là, parce qu'il y a la Karaïte et les machins, ils ont fait des petits. Ils te disent celle-là, elle est parfaite et justement, les codes ne marchent qu'avec celle-là.
Bien sûr, elle est vérifiée chez eux. Chez eux, elle est vérifiée. Bon, bien sûr. Ah, on en est des. Alors, on continue maintenant dans la Gemara, dans le traité de Moura.
Ben voilà. Et puis on a la maçon.
Amar Rav Yehuda. Vous avez en tout.
Combien il y a de la mètre, combien il y a de machin.
Ah, c'est clair, oui. On ne
peut rien changer en plus ni en moins.
Amar Rav Yehuda. Amar Shmuel. On prend maintenant la référence dans la Gemara Tmura, c'est page Tetzaï, donc page 16, 4e ligne. Amar Rav Yehuda Amar Shmuel. Donc on va voir quelque chose du même style, ça veut dire le rôle que le ciel peut avoir dans une halakha. D'accord ? Et après on arrivera à Bezrat Hashem au rôle du Zohar. Si, ouais, on a le temps encore. Amar Rav Yehuda Amar Shmuel, Rav Yehuda a dit non Shmuel.
Ouais, donc t'as oublié.
Shloshet alafim alachot, 3000 alachot, nishtakru, bime evlo shel Moshe.
Ouais.
3000 alachot ont été oubliés. Pendant Evlo Shel Moshe, ça veut dire ils ont été oubliés pendant le deuil de Moshe Rabbeinu. C'est-à-dire quand on était en train de célébrer le deuil de Moshe Rabbeinu, on s'est rendu compte que, tout d'un coup, on s'est rendu compte qu'on a oublié 3000 halakhot. D'accord? 3000 halakhot. Alors Rashi raconte comment ça s'est passé, d'accord? Rashi raconte, il dit que ça fait partie de halakhot, que les gens sont venus poser la question à Yeshua, et ils ont posé la question, il n'avait pas de réponse. Il y avait 3000 halakhot comme ça. La majorité, il avait des réponses, mais 3000 halakhot, il n'avait pas de réponse.
Il a demandé au ciel.
Attendez.
Ciel, c'est fini.
Alors, Amroul, Yoshua, ils ont dit à Yoshua, Shal, demande. Il a dit, je comprends pas, c'est quoi le problème. J'adore la classe comme ça. Tu demandes au ciel, c'est quoi le problème. Tu demandes, on te la redonne. D'accord. Enfin, on a oublié, tant pis.
On demande,
ce qu'il y a. Mais avec Barès, sort naturellement, comme tu vois, comme si c'est...
On est en reprise directe.
J'ai dit, c'est normal. Alors, Amroulou, les Yoshua, ils ont dit à Yoshua, Sha'al, demande. Amar, Yoshua leur a répondu, Lo, Bashamaim. Il leur a répondu, il a dit, non, je peux pas, la Torah n'est pas dans le ciel, il faut qu'on se débrouille tout seul. D'accord? Alors, Amroulou, les Shmuel. Alors, ensuite, ils sont tournés à Shmuel. Ils ont dit, bon, toi aussi, t'es prophète, Sha'al, demande, c'est pas possible, on va pas rester comme ça en plan. D'accord? Amar, il leur a répondu, il leur a dit, non. Et les mitzvot, le verset qu'on a dit en haut dans la Gemara Megillah, c'est écrit voici les mitzvot. De là on apprend quoi, hein? She'en Levi, Rachai, le Chadesh d'Avar Me'ata. Que aucun prophète, quand ne peut instaurer quelque chose depuis maintenant. D'accord? Amar Rabbi Yitzhak ben Anafra, Rabbi Yitzhak Nafra a dit, Afratat Shemetu Be'alea, Nishtakra Bimevlo Shel Moshe. Une des halachot, alors, c'est quelle 3000 halachot que tu as oublié? Alors, on connaît au moins une de ces halachot, c'est l'histoire de Khatat Shemetu Be'alea. Ça veut dire, il y a une personne, qui a offert un sacrifice. Pourquoi il a fait un sacrifice? Parce qu'il a fait une faute. Il offre un sacrifice, et le temps qu'il amène le sacrifice au Beth Amikdash, donc il a dédié le sacrifice, le temps qu'il le sacrifice au Beth Amikdash, Dieu préserve, il meurt.
Lui ou le sacrifice?
Lui.
D'accord.
La question qu'on se pose, c'est qu'est-ce qu'on fait avec le sacrifice? Puisque normalement, la mort, quelque part, c'est une capara. Ouais. Alors qu'est-ce qu'on fait? D'accord. La question qu'on avait, c'est est-ce que cette vache doit être mise à mort? D'accord. Donc au travers d'un sacrifice, ou est-ce que Roa, c'est-à-dire est-ce qu'on doit la laisser paître jusqu'à qu'elle va mourir, puisqu'elle n'est plus propriétaire et c'est compliqué, on ne sait pas quoi faire avec. C'est une des questions qui s'est posée. Il y a quelqu'un qui avait fauté, et entre-temps, quelqu'un qui était mort, alors, on ne sait pas quoi faire. Puis un des doutes qu'on avait, c'était ce doute-là. Et c'était quelque chose qu'on savait à l'époque de Moshe Rabbeinu, parce que c'était déjà arrivé.
D'accord.
Mais, impossible de se rappeler la halakha.
On devrait la chroter.
Alors qu'est-ce qu'on fait? Comment on va faire? Amrou les Pintras. Ils ont dit à Pintras, Sha'al, demande.
On parle du Pintras.
Là, c'est les anciens. D'accord. Bien sûr, le Pintras. Là, c'est les anciens du Amisraël qui sont en train de se tourner vers les... D'ailleurs, ils sont vers Yeshua, c'est le big boss. Il veut pas, il dit non, moi, je veux pas. Après, ils sont vers les... Attends, répondez. Ils ont dit à Pintras, Sha'al, demande. D'accord. Alors, Amarli leur a dit, Lo Bashamaim Hi. Ça, c'est la première mention qui existe de la Torah de ça. Il a dit, la Torah n'est pas dans le ciel. D'accord, c'est même pas, il est plus fort que les autres, d'accord. C'est pas que j'ai pas le droit de rajouter d'innover, quand même, la Torah n'est pas dans le ciel, ça veut dire qu'il n'y a plus rien à chercher en haut. Si n'allez pas chercher, il n'y a rien à chercher en haut. Alors, Amrou, El Hazar, le fils de Aaron, il demande. Amar, il leur a dit, et la mitzvot, il leur a répété ce que Shmuel leur avait déjà dit, et la mitzvot, voici les mitzvot, en Navi, Rachai, le Chadesh, Davar, Meatav.
Non. On n'est plus dans l'ordre chronologique, là.
Alors, justement, c'est une bonne question. A priori, il faut dire que, non, il y a un avis dans la Gemara qui pense que Shmuel a vécu très longtemps. J'ai une bonne question sur vous.
Quoi, il était déjà là?
Oui, il était déjà là.
Mais c'est le fils de Chana.
Parce qu'on retrouve, je sais,
on à l'époque retrouve, des rois.
On retrouve des comment on appelle ça, on retrouve des références de Shmuel. Depuis l'époque déjà de, comment on appelle ça, depuis l'époque du désert. Dans le désert, on retrouve des références de Shmuel. D'accord? Mais c'est vrai que, soit on explique qu'il a depuis cette époque-là, soit il faut expliquer qu'en vérité, cette histoire est une histoire qui s'est passée en plusieurs générations. Que c'est 3000 arabes qu'on a oublié, que chaque génération, on se tournait vers le prophète du moment, on lui demandait. Quoi qu'il en soit, le concept reste le même. Alors, Amar Aviouda Amarav, Aviouda dit nom de Rav, Bécha, donc comment on fait? On les a oubliés. Amar Aviouda Amarav, Aviouda dit nom de Rav, Bécha, Shiniftar, Moshe Rabbeinu, le Gan Eden. Lorsque, et là on va comprendre pourquoi on oublie Salachot. Lorsque Moshe Rabbeinu est décédé, et donc il est monté, alors écoutez bien le terme, on n'a pas dit qu'il est décédé, on a dit Niftar, Moshe Rabbeinu, le Gan Eden. Lorsque Moshe Rabbeinu nous a quittés pour le Gan Eden.
Ouais.
C'est intéressant. De là, on voit que le terme niftar, quand on dit qu'une personne est niftar, d'accord, niftar, ça veut dire acquitter, ça veut dire quitter. C'est-à-dire qu'il nous a quittés, mais pour aller où? Les Gan Eden, au Gan Eden. Vous savez comment Akbar a dit? Lorsque Moshe Rabbeinu nous a quittés pour aller au Gan Eden, juste avant de nous quitter, Amarle le Yeshua, il a dit à Yeshua, Shial, Mimini, Kol, Tzvi, Kol, Shiachlecha. Je t'en prie, demande-moi tous les doutes que tu as. Pose-moi toutes les questions parce que je vais partir. Alors, Amar lui a dit, Rabbi, mon maître, Klou minarti racha, chad vartil makamacher. Est-ce qu'il y a un moment où j'étais pas à côté de toi, en d'autres termes, il a fait une grande classe, j'étais toujours à côté de toi, tout ce que tu connais, je connais.
Tu parles.
D'accord.
J'étais déçu, moi.
Lokar katafta, n'est-ce pas que tu écris comme ça? Lokar katafabi, n'est-ce pas que tu écris à mon sujet? Ou mecharto, Yoshua binu, nar le mish mitorahuel? Que son serviteur, c'est toi qui a écrit dans la Torah que son serviteur, Yoshua, ne l'a jamais quitté. D'accord, donc je t'ai jamais quitté. En d'autres termes, tout ce que tu as enseigné, je connais. Alors, Marel raconte, a dit, Miyad, Tachash, Koroj et Yoshua. À ce moment-là, tout de suite, à ce moment-là, avant même que Moshe Rabbeinu parte de ce monde, Yoshua, il a senti sa force s'affaiblir, sa force spirituelle. Venish Takrou, Mimenu, Shlosh Meot à la chote. À ce moment-là, il a oublié 300 à la chote. Après, on a dit, c'est devenu 3000. Donc d'abord, à ce moment-là même, il a oublié 300 à la chote. Venol Doulouch, Shva Meot Fekot. Et à ce moment-là, il a eu 700 doutes. D'accord? 700 doutes. Bah, peut-être, je sais pas. 700 doutes. D'accord? Ça veut dire, à ce moment-là, il a eu 700 doutes qui sont nés dans son cerveau. Je sais pas comment il a fait pour avoir 700. À ce moment-là. D'accord? Et entre-temps, bien sûr, Moshe Rabbeinu est décédé. Alors, la Gemara nous raconte, elle dit, d'accord? Et Niftar, oui. D'accord? Il nous a quitté pour le Gan Eden. Ça veut dire quoi, décédé?
C'est ceux qui aiment laisser des roms.
Décédé.
Il a fait décédé. C'est quoi la définition de décédé?
Mais Star,
il a plus cédé.
Hein, Raphaël, c'est quoi la définition de décédé?
C'est une clé pour le...
Ouais.
Décédé.
Bon. Définitivement,
il a cédé, quoi.
Ouais, mais pourquoi
il
décédé?
Il a rempli son nom.
Donc, il y aura pas.
Cédé et décédé.
Bon.
Déjoué, décédé.
Quoi qu'il en soit, bon, on verra après, vous chercherez après dans votre iPhone ou un truc comme ça.
C'est alors. Les iPhones.
Non, ça vient du mot. C'est radio. Ouais.
Ça veut dire rendre.
Alors. Ah, écoutez bien la suite de l'histoire. Vehamdou Kol Israël et Orgo. Non, le peuple juif s'est rendu compte que Yeshua avait un problème qui s'est passé. Ils ont voulu le tuer.
On va le lâcher.
D'accord? Pourquoi? Parce que les gens venaient lui poser des questions et Yeshua répondait pas. Eux, ils ont pas compris que Yeshua, parce que Yeshua, tu crois qu'il va leur dire, j'ai oublié, etc. Yeshua, il a dit, bon, je vais vous répondre bientôt, etc. Et les Bnei Israël se sont rendus compte qu'il y avait tellement de cas qu'on venait lui poser des questions et qu'il répondait pas. Donc, ils voulaient le tuer. C'est-à-dire que le tuer. Rachid ne dit pas le tuer. Ils voulaient le tuer jusqu'à qu'il leur dise, je veux dire, on va vous tuer, répondez-nous à la question. Et les Juifs, quand ils veulent, ils ont... D'accord. Alors, je raconte la Gemara. Amarlo, Akadosh Baruch Hu lui a dit, Lomar lecha yefcha. Il a dit comme ça. Akadosh Baruch Hu s'adresse à Yeshua. Il a dit, c'est extraordinaire, écoutez cette réponse. Il lui a dit, te réponds, je ne peux pas te répondre. C'est-à-dire, te répondre au doute que tu as, je ne peux pas te répondre. Pourquoi il ne peut pas lui répondre? Parce que la Torah n'est pas dans le ciel. Donc, te réponds, je ne peux pas te répondre. Par contre, je peux te donner un conseil. L'air veut t'ordonner la milchama. Voilà. Va les prendre et amène-les en guerre, occupe-les avec la guerre.
Ils vont oublier
les questions.
La guerre, c'est la guerre.
Ouais. Vous voyez ce que Akadosh Baruch Hu lui dit? Il dit, te dire, je peux pas te dire. Ah, parce que je veux pas. Parce que tu pourras pas m'écouter. Ah, c'est.
Tu pourras pas m'écouter.
D'accord. Parce que la Torah vient pas du ciel.
On l'a dit quand
c'est la guerre. Oui, mais à un moment donné, elle était donnée quand même.
Ah,
la différence avec ce que tu disais tout à l'heure. La différence avec ce que tu disais tout à l'heure, dans les autres cas, on n'arrivait pas à trancher sur un cas, mais ça avait été quelque part donné. Là, ça a été donné, donc c'est descendu déjà.
Là, c'est très bien.
On n'est pas en train de redemander, c'est dans le ciel. C'est comme si, finalement, la mort de Moïse a fait que c'est remonté.
Très bien. Alors, bonne question.
Descendu.
C'est pour ça que le Mefarchim m'explique qu'a priori, il faut dire que c'est surtout une punition qu'Akadosh Baruch Hu a donné à Yeshua. Et c'est pour ça qu'il lui dit, je ne veux pas te dire d'abord parce que la Torah n'est pas dans le ciel, et même, bien qu'il y ait la réponse que vous avez dit, de toutes les façons, il ne veut pas lui dire parce que si, on l'a puni pour ça, il l'a puni pour l'orgueil. Donc c'est un tikkun, il est obligé
d'accepter. On les a retrouvés, hein, les lois, hein.
Ça touche. Non, parce que ça, à la Khotan, on les a, comme dit M. Bizou, on les a retrouvés pour la majorité. On les a retrouvés après avec la logique. Mm-hmm. D'accord? En se basant sur d'autres. D'accord?
Parce des rapprochements.
Bah oui, des rapprochements avec d'autres cas.
C'est Othoniel Ben Kenaz qui parle.
Othoniel Ben Kenaz, oui.
Qui a retrouvé tout
ouais.
Les... à la
ouais. Il a retrouvé ça. Pas toutes, une grande partie. Pas toutes.
Othniel
Ben Kenaz.
Ouais. Ouais. Ouais.
Bah, le Pitpoul.
Il les a retrouvés par le Pitpoul. Vous savez ce que la Gemara a dit? Il a dit que Rabbi Akiva, il a dit, si c'était pas écrit dans la Torah que le cochon est interdit, j'aurais pu trouver 150 preuves de la Torah qu'on peut manger.
Attends. Qu'on peut manger?
Oui. 150 preuves. Mais comme c'est écrit explicitement, on peut rien faire.
Avec la bracha.
Waouh.
Shrita et tout.
Imaginez le cerveau qu'ils ont. 150 preuves.
Qu'on peut le manger.
Qu'on peut le manger. Et voilà, parce qu'on compare à ça, on compare à ça, on compare à 150 preuves.
Quel dommage.
Mais comme c'est écrit explicitement, on peut rien faire.
Et pour les langoustes.
Ah. Quel dommage.
Et l'être humain, est-ce qu'on peut le manger?
Ah, on continue. D'accord. Alors, ben matnit, donc chez Neymar, comme c'est écrit, va yéh acharemot ashmoshev et hachem, va yomer hachem, va gomer, ben matnit tintana, elef ushvemot, kalin vachamourim, ugzerot shavot, vedik duke sofrin, Nishtakru bime evlo shel Moshe. D'accord. Donc il y en a qui disent que c'est pas 300 halakhot et 700 doutes. Il y en a qui disent que c'est 1700 mitzvot, enfin 1700 cas d'école que Moshe Rabbeinu a oublié. Très bien.
Non, Yoshua.
Que Yoshua a oublié. Alors, ah, Marabi Abaou, maintenant, je suis à l'avant-dernière ligne. Tu arrives à lire. Ah, Marabi Abaou, Rabi Abaou a dit. Donc 3 lignes avant la fin de la page. Afalpiken, quand même. Echeziran, Othniel Ben Kenaz.
Bravo.
Mitor Pilpulo. Il a réussi à les ramener, Pilpulo. Mais au travers de quoi? Pas au travers de l'inspiration divine, parce que c'était pas bon. Mitor Pilpulo.
Oui.
Il a réussi à les ramener au travers du Pilpul. D'accord? C'est-à-dire au travers de la logique, du rapprochement. Sans faire appel à la prophétie.
Pourquoi les autres non?
D'accord? Pourquoi les autres qui?
Les autres avant lui. Qu'est-ce qu'il avait de spécial sur
lui? C'était un grand rab.
Il était rentré dans un arc-canal.
Parce que
c'est
un
Ashkenaz.
Ben Kenaz.
Donc il est supérieur à
Yeshua. Bon, alors en passant, venez, je voulais ne pas lire la dernière ligne, mais je vais la lire.
Mais peut-être aussi qu'il a fallu attendre une génération sur laquelle ça pouvait être la rade, elle pouvait de nouveau revenir.
Oui, non mais...
C'est aussi ça, parce que peut-être qu'au niveau de Yeshua, c'est peut-être ces alarades qu'ils ont mis.
C'est pas le moment.
C'est une bonne question ce que tu poses, mais a priori, ce qu'on comprend d'ici, ce qu'on comprend de cette Gemara, c'est qu'un prophète a le droit de nous rappeler une halakha seulement quand c'est une halakha qui venait à la base, qui venait à la base, comme on a expliqué dans la Rava par exemple. Qu'est-ce qu'il y avait dans la Rava? Quand c'est seulement quand c'est, comment dire, c'est seulement quand c'est une halakha qu'on sait qu'on avait connu à la base et qu'on se rappelle qu'il y avait un cas d'école. Le problème dans ces 3000 cas apparemment, c'est qu'on n'est pas sûr qu'on se rappelait de ces cas-là. D'accord? Et c'est pour ça que Yeshua ne pouvait pas demander au ciel. Quoi qu'il en soit, écoutez bien.
Ah
ben oui.
Parce que non seulement on s'en souvient plus en plus, on les a oubliés. Alors on sait qu'il y avait 3000, on ne sait même pas de quoi ça parle. Ouais.
Alors justement, c'est pour ça que Yeshua a dit que je ne peux pas demander à Kadosh Baruch Hu, puisque c'est une punition. Ça fait partie de la punition qu'on a donné à Yeshua sur l'arrogance. Donc on peut rien faire, on est bloqué. Je crois, il me semble, d'accord, je l'ai pas vu écrit, je l'ai pas revu dernièrement, mais de ce que je me rappelle, il me semble que le seul cas qu'on n'a pas réussi à résoudre des 3000 cas, c'est le cas de la vache.
La vache rousse.
Non, de cette vache que je vous ai dit là, la vache, le khatat que le... voilà. Non, c'était pas un 3000 cas.
C'était pas
un 3000 cas. Alors, je voudrais finir avec les dernières lignes, après on va faire, après on va passer à la page suivante. La Gemara dit, chez Neymar, comme c'est écrit, Vaïl Keda Otniel Ben Kenaz, Achi Kelev. Donc, Otniel Ben Kenaz, il a réussi, donc il était le frère de Kalev. Il a réussi, attendez, écoutez bien la suite. Il a réussi donc, c'était un guerrier aussi. D'accord, il a réussi donc à reprendre une ville.
Un guerrier de la bouche.
Vaïtenlo et Aksa Bito Leisha.
C'est double guerrier.
Et il a donné donc à Otniel Ben Kenaz, il lui a donné sa fille Aksa. Pourquoi on l'appelait Aksa? Velaman et Krashma Aksa, pourquoi on l'appelle Aksa? Dans le mot Aksa, il y a le terme Koès, énervé. Parce que la Gemara dit, chez Kolaro, t'as tout celui qui voyait cette femme, Koès et Lishto, il s'énervait sur sa femme.
Ah.
Tellement elle était bien.
Je sais pas. C'est pas expliqué, mais a priori.
C'était la sœur de qui? De Kalev?
Non. C'était la femme de Otniel Ben Kenaz.
Oui, mais elle-même, c'était qui? Il lui a dit, il lui a donné.
C'est celui qui l'a voyé, il s'est énervé sur sa femme.
Comment ça veut dire? Oui, ça veut dire que c'était un paquet intelligent, belle, tout ce que tu veux. Faut qu'il regardait sa femme. Bam!
Bon, ça n'a pas de rapport avec mon sujet, mais bon, je pouvais pas manquer la dernière ligne.
Ah ouais, c'est
mignon. Bravo,
vas-y. Donc c'est possible.
Alors, on va passer à la page suivante.
Et ça, on s'est enregistré.
Oui, oui. Le cinquième amendement.
Alors, on va passer à la dernière page. D'accord? La page 11, c'est bon?
Tout ce que vous voudrez pourra peut-être se retourner contre vous.
Je crois que j'ai vu cette page.
Non, a priori, je pense que ce que M. Bussis a dit, que c'est plutôt idéologique, que ça devait être une femme parfaite, etc.
Ouais,
pas seulement dans la beauté.
Non, c'est ça.
D'accord.
C'est évident.
Alors,
c'est pas moi qui ai fait ces photocopies, hein.
C'est la Gemara, moi je vais que lire la Gemara. Hein. Alors, maintenant on va... en tout cas, ce qu'on a conclu, c'est qu'a priori, la voie du ciel a une marge très très limitée, sur... un impact très limité sur la halakha. Très bien. Alors maintenant, je vais passer à la dernière... Donnez-moi 5 minutes, on va conclure un dernier point. Alors, on a en haut, vous avez, c'est la page de garde d'un livre qui s'appelle « She'elot u'tshuvot min ha-shamayim ». Donc c'est un livre qui a été composé par Rabbeinu Yaakov de... Maroch, d'accord. Je crois que c'est une ville en Allemagne quelque part. Je connais pas.
Je crois pas.
Je sais pas si
c'est en Pologne. Peut-être.
D'accord.
Il y a pas qu'à Khatid.
C'est Maroc. Non, c'est un des Baalei Tosfot, c'est un des Tosafistes.
D'accord.
C'est un des Tosafistes. Donc ça fait longtemps. C'est un des Tosafistes. Et il a écrit un livre. Qui s'appelle She'elot u'tshuvot min ha-shamayim, réponse, d'accord, responsable du ciel. Alors ce qui est intéressant, c'est que dans une des réponses, qui est datée du 19 qui se lève. Qu'il faut toujours trouver un rapport. Il dit Ayom Yom Sora. Il dit aujourd'hui est un jour de bonnes nouvelles. La réponse du ciel, d'accord. La même réponse du ciel. Il dit aujourd'hui est un jour de bonnes nouvelles, sans qu'on sache aucune bonne nouvelle qui s'est passée le 19 qui se lève. Alors, chez Chassidim, on dit que bien sûr que c'est un rapport. C'est un rapport avec une fête qui s'est passée bien plus tard.
Oui, oui.
D'accord.
Donc il était branché avec le futur.
Parce que là, il a cité des réponses qui venaient du ciel, d'accord. Donc vous voyez, Shelot ou Tchouot, c'est pas seulement carrément il a nommé son livre comme ça, réponse du ciel. Alors, on a écouté bien, on va lire ensemble, donc on voit que c'est un phénomène qui existe, des réponses du ciel. Bon, des réponses à l'Afrique. On va lire ensemble, en dessous, dans le Chida. Vous avez le Chida?
Il y a rien, le 21 qui se lève.
Chida.
Marois, c'est une région
le 22
de France.
Hein.
Alors, le Chida a écrit un livre qui s'appelle, je crois pas qu'il est traduit, c'est dommage d'ailleurs.
Non, le lendemain.
Messieurs, allez, comme ça on fait, comme ça on conclut.
Le lendemain, c'est le 18 qui s'appelle.
Le Chida a écrit un livre qui s'appelle Shem Agdolim. Shem Agdolim, ça veut dire le nom des grands. C'est un livre dans lequel il a recensé la majorité des Chachamim qui avait depuis l'époque, de la Gemara jusqu'à sa génération. Et donc, il a essayé de faire une sorte de biographie sur chacun de ses Chachamim. Donc, son livre s'appelle Shem Agdolim. Kor, Shem Hagdolim, le nom des anciens, le nom des, pardon, le nom des grands. Et c'est un livre qui est classé par ordre alphabétique. Aleph, Bet, Gimel, Dalet. Bon. Donc, dans la lettre Yud, il parle de Rabbi Yaakov Hechassid. D'accord? Rabbi Yaakov Hechassid, donc, qui est ce fameux Rabbi Yaakov de Maroche, qu'on vient de dire ici. Qui est un des tosafistes. Rabbeinu Yaakov Hechassid, Aya Shoel, Shelot, Minashamaim. Rabbi Yaakov Hechassid posait des questions du ciel, Beilchot, Ubisfekedini, dans les Halachot. Ah, tu n'as pas la feuille. Ubisfekedinim, et dans les doutes qu'il avait. D'accord, dans les doutes qu'ils avaient sur les dinim, Ouléachria ben Aposkim, ainsi que pour réussir à trancher entre une marloquette qu'il y avait entre les poskim. Ou Meshivimlo, et on lui répondait. Vechen Katava Ritbaz, Beshi Bitchuva Bechelek Alef Smanyud, ainsi le Ritbaz a écrit, Daya Echad Magdolim Bekabala, Achekarash Moyakov. Un des plus grands en Kabbalah qu'il y avait à cette époque-là, il s'appelait Yaakov. Donc c'est ce fameux Rabbi Yaakov. D'accord?
Il est toujours là.
D'accord. C'est toujours là. Bon. Alors, ça c'est le Chidat qui ramène. Donc ça c'est dans la biographie. Ensuite, vous voyez en petite lettre, ça je vous explique à l'oral. Ça en petite lettre, c'est les commentaires que le Chidat a écrit sur la biographie. C'est-à-dire qu'il a écrit, il a fait son texte comme ça, il a écrit la biographie. Et en dessous, il a ses commentaires, ses notes personnelles. Donc, bien sûr, la question qui se pose sur ça, quand il se pose la question, il dit a priori, comment c'est possible de dire qu'un grand homme comme ça, il pose des questions au ciel. Alors, voilà, a priori, on a vu clairement dans Maïmonide a dit que la Torah ne peut pas venir du ciel.
Mais est-ce que c'est un prophète, d'accord, ce Rabbi Yaakov?
Ben si, c'est une forme de prophétie.
C'est parce une qu'il... forme, mais c'est pas dans le canon...
C'est la même chose. Ça revient en même, c'est la même chose. C'est quoi? Ça veut dire quoi une prophétie? Ça veut dire une voix qui vient du ciel. Ça veut dire qu'on peut pas trancher par le ciel, il faut être tranché par la logique. Alors comment Rabbi Yaakov est raciste de trancher ici? D'accord? Donc il pose une grande question, il développe longuement. D'accord? Il développe longuement, il dit que, il ramène différents textes de la Gemara, que d'ailleurs on a vu, pour la majorité on les a vus, dans lesquels on voit que la prophétie a un certain impact, que la voix du ciel a un certain impact, mais quand même il se pose la question, il dit comment ça se fait qu'on a utilisé la prophétie pour trancher d'Alachot. Et la réponse qu'il y a est la suivante, écoutez bien. C'est une réponse, je pense, qui est très intéressante. Il dit comme ça. Il dit qu'en vérité, il faut faire la différence entre quand on a une voix du ciel qui vient à l'encontre d'une Alacha qui est explicite dans la Gemara, ou bien quand on a une voix du ciel qui est à l'encontre d'une compréhension de la Gemara par les décisionnaires.
Un truc en suspens, quoi.
C'est-à-dire comme ça. Il dit, si c'est quelque chose qui vient, si la voix qui vient du ciel vient à l'encontre de quelque chose qui a été tranché à l'époque de la Gemara, ou bien à l'époque du Sanhedrin, etc. Là, dans ce cas-là, le Zohar ne peut pas les comprendre. Pour prendre l'exemple du Zohar ou la voix du ciel. D'accord? Mais par contre, c'est intéressant comment le Chida développe, ça je pense assez unique. Et d'ailleurs.
Le Chida, tu dis?
C'est le Chida, ouais. Et d'ailleurs, après, il y a beaucoup qui reprennent cette, je vais appeler ça une jurisprudence du Chida pour expliquer beaucoup de choses. Mais il dit, mais une fois que la Gemara a été conclue, et que tout a été conclu, après, et par la suite, c'est pas des Rachamim qui vont innover. C'est des Rachamim qui vont essayer de comprendre la Gemara. Par leur cerveau. Alors ça, il nous dit, pour une compréhension de la Gemara, on a le droit de faire confiance aux Zohar. Quand les Zohar te disent comme ça qu'il faut comprendre, t'as le droit de lui faire confiance. Par exemple, dans l'exemple que je donnais tout à l'heure, est-ce que je dois faire la Mida à voix basse ou à voix haute? La Gemara n'en parle pas. C'est des choses qu'on comprend de la Gemara. C'est des décisionnaires qui ont compris de la Gemara qu'il faut faire la Mida, il faut s'entendre. C'est pas écrit dans la Gemara. D'accord? Si c'était écrit, la question ne serait pas posée. Comme c'est pas écrit, c'est pour ça qu'on peut se permettre d'avoir une marque locale entre le Zohar et les Poskim. Après, il y a une différence. Par exemple, je sais que chez les Sfaradim, il y a une grande marque locale entre le Rav Ovadia Yosef et, en vérité, la majorité du monde Sfarad. Quand je dis la majorité du monde Sfarad, ça veut dire, par exemple, vous prenez les Tunisiens, les Marocains, bon, les Algériens, j'ai pas trop de sources, mais le Maghreb, d'accord. Le Rav Ovadia Yosef suit, d'accord. Le Rav Ovadia Yosef suit le minhag irakien qui dit qu'il faut toujours suivre la halakha sans faire appel au Zohar. D'accord. C'est-à-dire quand il marque entre le Zohar et les Poskim, on ne prend jamais l'avis du Zohar. D'accord.
Les Maghrébins, si.
Ça c'est l'avis des Maghrébins, comme ils les appellent. Bon, les Maghrébins, j'aime pas ce terme aujourd'hui.
Ouais. Maghreb, ça veut dire quoi? Ça veut dire le sud.
Oui, j'ai compris, mais bon, aujourd'hui c'est devenu un terme péjoratif.
Oui.
Ils disent que non, il faut suivre le Zohar. On a des tas de halakhot qui dépendent de ça. Vraiment, des tas de halakhot qui dépendent, des tas de minagim. De minagim qu'on a aujourd'hui, surtout des minagim, tu prends des minagim de Rosh Hashanah, des tfilot qui changent par rapport à ça.
C'est pas des halakhot, c'est des minagim.
Ben oui, non, mais c'est pas seulement des halakhot, c'est même des mots de la tfila qui changent. D'accord? Et carrément des choses qui changent complètement suite au Zohar. Et que c'est pour ça, c'est un point qui explique une des grandes marloquettes qu'il y a entre Rav Ovadia Yosef et le Mont Sfarad. Ça, a priori, je sais que c'était d'ailleurs une des grandes marloquettes qui était entre le Rav Mordechai Eliyahu et le Rav Ovadia Yosef. C'est les Shem Shemaim, bien sûr. c'est que le Rav Mordechai Eliyahu, lui, toujours, il disait, il faut suivre la vie du Chida, par exemple. Et le Chida, il y a beaucoup de halakhot que le Chida a tranché, en se basant sur le Zohar. D'accord? Et il y a beaucoup de cas dans lesquels on fait des choses qui vont à l'encontre du Shulchan Aruch. Beaucoup de cas. Dans lesquels nous, on fait des choses qui sont à l'encontre du Shulchan Aruch. D'accord? Voilà. Comme par exemple, l'histoire de la Tfila, est-ce qu'on doit se faire entendre ou pas? Beaucoup de cas. Surtout dans les minagim de la Tfila. Des choses qu'on doit faire attention. Des choses qu'a priori, le Shulchan Aruch, on fait clairement, explicitement le contraire du Shulchan Aruch.
Le arrive,
d'accord. Ah bon. Et puis Kabbalah, c'est sûr.
Voir.
Pourquoi le contraire du Shulchan Aruch? Parce que le Shulchan Aruch a été écrit pour les poskim. D'accord? Le Shulchan Aruch a été écrit pour les poskim. Mais voilà, un exemple qui me vient par la tête, c'est dans les brachot du matin. D'accord? Dans les brachot du matin, si je me trompe pas. C'est-à-dire, dans les sidourim, aujourd'hui, on le fait comme le Zohar. Dans les brachot du matin, il me semble qu'il y a une machloquette, d'accord? Dans le Elokai, dans le Yeratson, il y a un Yeratson qu'on a appris. Ouais. Il y a une machloquette sur la manière comment de le dire entre les poskim et le Zohar. Alors, il y a une machloquette également. Ouais, passe-moi.
Ça, c'est Zohar.
Ouais. Le texte qu'on a aujourd'hui ici, sur ce Yeratson, un des Yeratson.
C'est pluriel, hein.
D'accord.
Le pluriel, déjà.
Oui, peu importe si le pluriel. C'est un texte qui vient du Zohar, et dans lequel les poskim ne sont pas forcément d'accord. Et le monde séfarad, le monde racidique aussi d'ailleurs, a tranché principalement en ce moment sur le Zohar. Donc ça, c'est ce qui explique le fait que très souvent, on a une grande différence de minag. On a des grandes différences de minagim. C'est justement, est-ce qu'on suit le Zohar ou est-ce qu'on ne suit pas le Zohar? D'accord? Je sais pas, j'essaie de chercher des exemples en tête. Il y a beaucoup d'exemples. C'est des grandes machloquettes qu'il y a eu entre... je sais qu'il y a une machloquette également sur le Hallel.
Oui, si on dit la bracha ou pas, si on dit
la bracha dans quel cas ou pas. D'accord? Par exemple, est-ce qu'on peut dire la bracha du Hallel dans un jour où on ne dit pas le Hallel complet?
Ouais.
Non.
D'accord?
Alors, disons que celui qui fait...
Qu'est-ce que tu dis, toi?
Où on dit c'est le petit Hallel?
Alors, paradigme, comment...
c'est le Chazan alors, qui fait la...
le paradigme, quand tu dis que l'Ikro est à Hallel ou le Gmor est à Hallel.
Oui, voilà.
Bon. C'est ça, je crois non, c'est pas écrit ça. Je crois non, c'est écrit que le jour où on ne finit pas l'Hallel, on ne fait pas la bracha du tout.
Y compris le Chazan?
Ah non, il n'y a que le Chazan qui dit, on répond Amen.
C'est ça, dans le grand...
Non, mais il y a Gmor et l'Ikro, il y a deux brachas différentes.
C'est le paradigme,
tout le
monde le dit, même si on ne complète pas.
Qu'on est seul, uniquement lorsqu'il est grand, on le dit seul, la bracha.
Non, on le dit aussi quand
il est grand. Non, jamais. Quand tu le fais seul,
regarde,
je t'ai dit, quand tu fais la... Non, mais je te dis, comment nous on fait après
294. Je te dis,
nous...
Je vais avoir été perdu.
Je te dis, comment nous on fait, voilà.
C'est pas...
Je suis tunisien, j'en sais, moi, c'est petit. Quand on le fait, quand c'est le petit Hallel, on ne fait jamais la racha. Qu'on le fasse seul, même qu'on le fait seul ou qu'on fait avec le chaliar.
C'est écrit.
Mais là, c'est pas marqué.
Je sais pas où c'est marqué. Je dis que c'est pas marqué, c'est comme ça qu'on
a fait. C'est notre minag, c'est intéressant.
Voilà. Ouais. Quand on fait le petit Hallel, on suit le chaliar.
Mais quand est-ce qu'il dit l'Ikro alors?
On répond Amen. On répond Amen, on fait ni la racha du début.
Mais on dit Hallel. Mais on dit pas la bracha.
Du début, ni la bracha de la fin.
On dit pas la bracha.
Quand c'est le grand Hallel, tu le fais en même temps que le chaliar Sibou.
Très bien, très bien.
Quand tu es seul, tu le fais. Même seul, tu le fais. Uniquement quand c'est grand. Non,
l'Ikro pour le petit
Ligmor
pour le grand.
Quand tu fais Ligmor, voilà, tu fais la bracha que lorsque tu dis Ligmor. L'Ikro, tu fais jamais la bracha.
Intéressant.
Mais dans le livre, c'est marqué, pourquoi?
Je sais pas ce qui est marqué, mais je sais que c'est comme ça qu'on le fait.
Très bien, intéressant.
On n'a pas un livre du Rav Yosef ici?
Je sais
pas regarder comment c'est marqué, c'est comme ça qu'on fait.
En Tunisie, il faut savoir, en Tunisie, les minagim tunisiens suivent beaucoup, énormément le Zohar.
Non, le Mourazakan.
Oui, d'accord,
c'est
mais
bien,
surtout.
C'est connu, ça.
Oui, mais c'est surtout les minagim du Zohar. Énormément les minagim du Zohar.
Je n'ai pas marqué ça, je n'ai même pas regardé.
Alors, d'ailleurs, c'est une des grandes marquettes, c'est aussi une des grandes marquettes qu'il y a entre le Rav Mazouz et le Rav Adi Yosef. Il y a beaucoup de choses sur lesquelles le Rav Mazouz n'est pas d'accord avec le Rav Adi Yosef. Notamment, en ce qui concerne le Noussar de la Tfila. Le Rav, le Ishmael Tliar, le livre qu'on a ici, il y a beaucoup de textes, vous remarquerez, qui diffèrent du Patach Eliyahu. Oui. Beaucoup de textes qui diffèrent. Mm-hmm. C'est principalement basé sur le Zohar. Et c'est pour ça que ça ressemble beaucoup au Tehillat HaShem. Beaucoup.
Ishmael Tliar, on dit l'Ikro, ça a l'air.
Alors vous allez me dire, c'est pas les différences.
Oui, on fait la bracha seule, l'Ikro, mais pas les Gmor.
Attends.
Oui, d'accord.
Voilà, Ishmael Tliar, il dit, on fait.
Pas seul,
c'est pas le dit. Qui le dit?
Ishmael Tliar, mais non, c'est tunisien, Ishmael Tliar.
Non, c'est pas Ishmael Tliar, ça.
Ben alors.
Non, Ishmael Tliar, ça.
On fait pas.
Vas-y,
tu apprends autre chose.
Lui, dit rien, là.
Ah oui, il y a rien là-dessus.
S'il
y
en
a.
Qui dit où consent?
Consent, ouais.
Qui pas.
Allez, d'accord.
C'est parti.
Donc, en tout cas, je veux conclure avec ça. D'accord, je veux conclure avec ça. C'est que, Après, bon, après, honnêtement, c'est un, il y a un long développement, il y a un long, très très long, parce que c'est déjà tard. Il y a un long, on a déjà dépassé largement. Il y a un long développement dans le Rida ici, il amène différents cas de figure, si la voix est venue à l'Alaha ou l'Alaha est venue avant de la voix, enfin, différents cas qui développent, mais je veux juste vous amener à la conclusion. La conclusion, c'est que quand on a une marloquette entre les poskim et entre les poskim, c'est-à-dire les décisionnaires, d'accord, et le Zohar, on a le droit de suivre l'avis du Zohar. Mais par contre, dans quel cas on a pas le droit de suivre l'avis du Zohar,
voilà. Mais pas sur une décision
là. Si c'est une décision halakhique, mais que la marloquette n'est pas à l'encontre de la Gemara, c'est-à-dire que la Gemara était floue dessus, d'accord. Si la Gemara était floue sur quelque chose et qu'il y a une marloquette après sur la manière de comprendre entre les poskim et le Zohar, bien que le Zohar n'a même pas d'argumentation halakhique, on peut suivre le Zohar.
Il n'y avait pas aussi une discussion entre sur les titites
entre
le Zohar et le Shulchan Aruch.
Oui, entre le Zohar et le Shulchan Aruch, est-ce que les titites doivent être visibles ou pas?
Voilà.
Ah.
Oui.
D'après le Zohar, il doit être visible. D'après
oui.
Le Shulchan Aruch,
il doit être caché.
Ouais. Ah bon, on n'a pas joué à notre
cas. Ouais, franchement, on devait être caché.
Et nous, on écoute le Zohar.
On les rentre en état. Mais non, c'est bizarre qu'on écoute le Zohar.
Non, tu les caches pas, toi.
Tu es sûr qu'il est caché ou il dit rien?
Bah, si tu les caches pas.
C'est pour ça, excusez-moi, mais.
Le particulier.
Moi, ça me fait. Moi,
ah,
ça
non,
me fait.
Le particulier que je préfère, que lui ne dit pas la bénédiction le jour où on le dit.
Voilà,
je le dis.
Alors,
tu vas travailler avec des titites qui sortent.
Non, le premier.
Moi, ce que je sais, c'est qu'aujourd'hui, ça me paraît bizarre.
Le particulier qui ne prie pas avec la clé ne dit pas cette bénédiction le jour où on l'aurait su à l'aile abrégée.
Mais quand il est avec Minyan, il dit l'icro.
Alors le Minag, je vais te dire maintenant.
Quand il prie avec Minyan.
Le Minag Rabat.
Quand il prie avec la communauté.
Je sais pas ce que le Minag tunisien, parce qu'il dit rien sur le Minag tunisien là-bas. Le Minag Rabat, c'est que quand on fait le Hallel abrégé, on dit quand même l'Igmor est à Hallel. D'accord?
On vous dit tout le temps
l'Igmor. On dit toujours l'Igmor est à Hallel, mais même le Kahal le dit, mais le Kahal le dit à voix basse. Pas à voix haute. De le dire discrètement.
Nous on dit Amen.
D'accord?
Je dis Amen.
Amen? Non mais le Minag Rabat, c'est qu'on le dit discrètement. J'étais en train de dire, Yaakov a donné un exemple, d'accord? L'exemple qu'Yaakov a donné, c'est quoi l'exemple qu'il a donné? C'était sur,
le
titit. Il y en a une marloquette. Selon Shulchan Aruch, a priori, le titit Katan doit être caché à l'intérieur.
Ah, Katan, je suis pas d'accord.
Doit pas être visible à l'extérieur.
Oui.
A priori, c'est quand Shulchan Aruch. D'accord? Mais, aujourd'hui, c'est intéressant parce que la majorité des gens suivent cet avis-là, même des gens qui se disent lituaniens ou ce que vous voulez, d'accord? Ils montent les titites dehors. Ça c'est quelque chose qui est dans le Zohar. Le Zohar explique qu'il y a un concept que les titres doivent sortir et que tu dois aller aux quatre coins, etc. Enfin, une notion de quatre coins, que ça aille dans tous les sens. Il y a aujourd'hui, tous les enfants, c'est comme ça. Dans Shulchan Aruch, c'est écrit le contraire.
Oui.
D'accord? Encore une fois, pourquoi on se permet de le faire? On se permet de le faire parce que dans la Gemara, on n'en parle pas. D'accord? Donc c'est une marque entre les poskim et le Zohar. On a le droit de suivre le Zohar. C'est pour ça, aujourd'hui, moi, quand je vois des fois des gens, ils disent, pour nous, la halakha est comme le Rav Avadia Youssef, il faut être prudent quand on dit ça, parce qu'il y a beaucoup de cas dans lesquels le Rav Avadia Youssef dit des choses qui ne suivent pas la vie du Zohar, parce que c'est le Minhag irakien. C'est le Minhag Shulchan Aruch, mais c'est le Minhag irakien. Alors qu'en Tunisie, au Maroc, on a toujours suivi la vie du Zohar.
Babylonien, on va dire.
Bah oui. D'accord, c'est important de le savoir, ça.
Mais bon,
ça veut dire qu'on peut pas suivre aveuglement, quand, la vie de Rav Avadia Youssef. La vie de Rav Avadia Youssef est un avis qui se passe sur le Shulchan Aruch, mais qui ne fait appel pratiquement pas au Zohar. D'ailleurs, le Rav Avadia Youssef, il supporte pas pratiquement pas les Mekoubalim. Oui, parce que c'est de nature, c'est comme ça qu'ils ont été éduqués en Irak. C'est pas qu'ils les dédaignent, c'est que de nature chez eux, le plus important c'est le chacham, le prophète et pas de prophète, entre guillemets. Et on voit clairement que dans le monde des chassidis, mais même, pas seulement ça, même dans le monde des lituaniens, ceux qui suivent le Gaon de Vilna, eux aussi, on accorde une grande, grande importance au Zohar. C'est-à-dire qu'on tranche comme le Zohar contre la halakha. D'accord? C'est pour ça qu'aujourd'hui, par exemple, sur les titites, dans la majorité du Ham Israël, on fait ça. Bien qu'à priori, si on suit le Shulchan Aruch, on l'avait étudié d'ailleurs, je sais pas si vous vous rappelez, dans le cours du mardi matin, le Shulchan Aruch dit, faut cacher les titites. Des tas. Mais encore une fois, vous allez me dire, c'est pas des choses qui sont essentielles, c'est pas la fin du monde,
le cimetière.
D'accord? Non, pas le cimetière. C'est pas des choses qui sont essentielles, c'est pas le bout du monde, c'est pas des choses qui sont essentielles, mais, d'accord? C'est quand même important et on voit qu'a priori, on suit la vie du Zohar. Parce que c'est pas quelque chose de capital qui va à l'encontre de quelque chose qui était tranché dans la Gemara. Ça va être ici. Passons au sujet de la semaine prochaine, Rav Tachem.